Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue. Eh bien, bienvenue pour cette première de Quoique, la radio qui fait ce qu'elle peut. Alors Quoique, qu'est-ce que c'est? Ben, Quoique, c'est une petite émission de radio qui est diffusée sur Internet une fois par semaine. Donc, mais ça, si vous nous écoutez, vous le savez déjà. Alors après, le fond, le sujet de l'émission, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être... on est une bande de jeunes, la trentaine... entre 7 et 77 ans, et on ne comprend pas toujours bien tout ce qui se passe, donc on va s'interroger, on va parler, on va se poser des questions, on va essayer de donner des réponses qui vont sûrement être très mauvaises, et d'ailleurs on compte sur vous pour nous donner des indications, nous aider, nous faire des critiques, nous faire des nous féliciter.
Des fellations ?
Oui, bah pourquoi pas, mais sur Internet c'est difficile. Et nous insulter aussi, mais pas trop. Alors pour tout ça, on est une petite bande que je vais m'empresser de vous présenter. Donc nous allons honneur aux dames et à notre hôte. Donc Béa, c'est une jeune femme mystérieuse. Est-elle blonde, brune, grande, petite, grosse, maigre? Eh bien vous n'en saurez jamais rien. La seule chose qu'elle va vous dévoiler... ça sera sa voix extrêmement sensuelle, la finesse de ses observations et la justesse de ses analyses. Bonsoir Béatrice.
Que de compliments.
Ah bah oui, alors, oui. De quoi vas-tu nous parler?
Donc moi je vais vous parler de la télévision, donc ce sera pas franchement sérieux, puisque la télévision n'est pas quelque chose de sérieux à mon avis, puisque de toute façon elle passe son temps à diffuser quelques films, des séries, des talk-shows, des divertissements, et même au niveau des informations, on les prend pas au sérieux. On sait très bien que de toute façon, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, parce que les images, on leur fait raconter absolument ce qu'elles veulent. Donc voilà, moi je vais vous présenter la télé que je regarde, celle que j'aime pas. Voilà, tout ça, selon les émissions que j'aurais vues, les trucs intéressants au moins.
Ou moins alors?
Oui, au moins.
Parce qu'il y a des trucs intéressants à la télé?
Ça peut arriver, ou alors ce que je peux trouver intéressant, en tout cas ce que moi j'aime bien.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Béatrice dit qu'elle va parler de ce qu'elle regarde et de ce qu'elle n'aime pas. J'en conclus que c'est... il y a ce qu'elle regarde et qu'elle n'aime pas.
Non, comme ça, voilà. Ce sera le prétexte pour me forcer à regarder ce que j'aime pas pour pouvoir le critiquer mieux.
Ah. Oui, mais Valérie, tu ne t'es pas encore présentée.
Oui, mais d'ailleurs...
Et moi non plus.
Et d'ailleurs, fermez vos gueules, s'il vous plaît, messieurs, dames. Enfin, les enfants. Bon, merci Béatrice. Maintenant, nous allons parler de Flo. Alors Flo, elle est brune, de taille moyenne, elle a un grand sourire... elle aime boire, manger et surtout elle aime le cinéma. Tout le cinéma. Les grandes productions américaines, plutôt moins. Les films d'art et d'essai, plutôt plus. Et en passant par les comédies à la française de Max Pécasse, que tout le monde connaît.
Rien je savais pas que t'aimais Max Pécasse.
Mais si, si, bah, toi aussi tu aimes. Alors, Flo, bonsoir. Est-ce que tu peux un peu développer, te présenter? Dis-nous.
Alors c'est simple, d'abord je ne savais pas que j'aimais beaucoup Max Pécasse,
mais
bon
si,
d'accord,
si,
puisque c'est comme ça. J'aime énormément Max Pécasse, c'est vraiment mon auteur, mais vraiment favori. Pour simplifier la chose, et oui, 1m65, je suis ce qu'il y a de plus sexy au monde, 1m65,
de
90,
de tour de quoi,
pardon, A, avec du coton. Je fume ma pipe, je bois du whisky, vous êtes servi, vous êtes au courant, tant pis pour vous. Ceux qui n'aimeront pas ma chronique, eh bien qu'on se rhabille. Moi j'aime les films pourris et très très pourris, c'est ce qu'on m'a dit déjà une fois. Je tairai le nom de l'auteur parce que l'auteur de cette réflexion misérable est mineur.
Il est voilà. Dans la salle?
Non, il n'est pas dans la salle, c'est un mineur, il n'y a ici que des majeurs autant que je vois. Et voilà donc j'aime les films qui puent, un film qui se dégrade pue, donc j'aime les films qui puent puisqu'ils ont un certain âge et donc ils se dégradent et ils puent et... D'accord. et toute personne ayant assisté une fois à une projection avec moi n'a pas vraiment envie de recommencer l'expérience, donc voilà, vous êtes prévenus, les films que je vous présenterai en général sont chiants, très chiants.
Bah écoute, un petit peu comme toi, en fait.
Voilà, enfin, tu ne nous as jamais invités au cinéma. Attends,
je ne vous ai jamais invité au cinéma. Je n'ai jamais osé. Je peux le faire. Vous le ferez si vous voulez.
Pas cap.
Je t'emmène, Darty.
Moi, j'y suis allé. Hein.
S'il vous plaît, les gens qui n'ont pas été présentés.
Et voilà, donc... moi, ça ne sera pas la critique Télérama, parce que Télérama se prend le chou. Je n'ai pas cette prétention-là. Voyez-vous, je suis une technicienne... Voilà. Ma vision du cinéma est peut-être certainement, et même l'est très certainement, plus légère que celle des autres. Et je rendrai un hommage à Clotilde en disant qu'effectivement, comme je l'ai entendu dire dernièrement sur France Inter, la télé est peut-être une plus juste vision du monde que le cinéma, qui maintenant devient de plus en plus divertissant grâce à Hollywood.
Mais le cinéma n'a jamais été fait forcément pour être réel.
Bravo.
Voilà. Non, mais...
Et c'est pas parce que la télévision fait de la réel TV qu'elle est forcément
plus
tard, la réalité.
Les enfants.
c'est pareil, les...
Voilà. Merci.
Je vais pas dire les enfants, vous allez dire les filles.
Les filles aussi, mais ça n'empêche pas. Donc maintenant, nous allons passer à Valérie. Jeune mariée.
Encore une fille.
Et oui, jeune mariée et un sacré vénard.
Il n'y a que des nanas ici.
Mais s'il vous plaît. J'avais dit qu'il fallait pas de filles.
Tu l'avais dit, mais tu avais bien raison. Donc Valérie, jeune mariée et jeune mariée à un sacré vénard, parce que bien d'autres hommes auraient aimé être à sa place. Parce que Valérie, elle est... disponible, organisée, quelquefois impatiente, un petit peu très impatiente, mais elle a un sens de l'observation aiguisé comme une lame de rasoir. Elle sait dénicher les incohérences, les absurdités qui nous entourent mieux que n'importe qui. Et d'ailleurs, elle nous parlera. Tu nous parleras de quoi, Valérie, d'ailleurs ?
Je vous parlerai de faits divers, de faits insolites dans la société, enfin de pas mal de sujets qui m'amusent et qui sont traités de manière très courte à la fin des journaux en général. Et pourtant, c'est à mon avis les plus intéressants parce que ça révèle beaucoup de choses sur la psychologie, sur les incohérences justement, les incohérences de ton verre par exemple, qui d'un côté dit que certains, mon mari est vénard, et d'un autre côté explique qu'il n'a pas du tout envie d'être à sa place.
C'est fou, mais je me console comme je peux. Maintenant, c'est trop tard.
Voilà, et puis sinon, je vous parlerai peut-être d'autres sujets de temps en temps, parce que c'est vrai que je pense vachement avec mon ventre aussi, j'aime pas les bananes, mais sinon j'aime le fromage, j'aime les pâtisseries, j'aime plein de choses comme ça. Et
le bas du ventre, il dit quoi ?
Le bas du ventre, il dit « Dépêche-toi, Darty », comme disait l'autre, puisque je suis impatiente.
Merci Valérie. Maintenant, on va attaquer les bonhommes. Bon, beaucoup moins intéressant. Mais bon, on est obligé, hein. C'est la parité, ça s'appelle. Donc maintenant, Darty, sacré vénard. Alors Darty, il aime boire, manger, la musique, Valérie, la course à pied, l'informatique, le développement libre, la SACEM. Mesdames et messieurs, dans ces propositions, il y en a une qui est fausse. Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est la SACEM. Mais il va nous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Darty, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Maintenant, dire que j'aime pas la SACEM, c'est un peu réducteur en fait, parce que j'ai plein d'autres choses dans la vie que de pas aimer la SACEM. Par exemple, j'aime l'informatique. Voilà, hein,
alors tout de suite.
Alors, si vous voulez vous représenter le Darty, d'ailleurs, c'est dommage que ton verre ait pas fait une présentation physique un petit peu de mon personnage.
J'ai pas voulu qu'on se fâche.
C'est grosso modo, bon.
Il est vraiment séduisant.
L'informaticien, vous imaginez un informaticien, bon, il est devant un ordinateur tout le temps. Bon, là, je suis pas devant un ordinateur, je suis devant un micro. Remarquez, je fais des efforts.
C'est donc la différence entre un micro et un ordinateur.
Un micro n'a pas de clavier.
D'accord.
Voilà, exactement. Et, l'autre de la bouche. Et donc voilà, l'informaticien. J'ai des lunettes, par exemple. Enfin, tout informaticien qui serait.
Vachement original. Un Français sur deux porte des lunettes.
Ah ouais. Mais en plus, normalement, les informaticiens sont boutonneux. D'ailleurs. Moi je laisserais bien la place à quelqu'un d'autre en fait, parce que
maintenant tu n'as plus ce genre de problème.
Ouais. Les informaticiens aiment les pizzas aussi. Raconte-nous un petit peu le genre de pizza qu'aiment les informaticiens.
Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. C'est vrai que l'informaticien, sa nourriture de base, normalement, c'est la pizza froide brûlée.
Ah, c'est pas mal.
Et enfin, pizza parce que.
D'accord. On pourra faire une grande émission sur
les pizzas froides brûlées.
La pizza. Ouais. Merci. Donc maintenant, merci Darty. Et maintenant, nous allons attaquer, car c'est pas un petit mot, nous allons attaquer Numa. Numa, alors il est brun, de taille moyenne, il a souvent l'air très fatigué, il est souvent très fatigué, il aime boire, manger, le cinéma, d'ailleurs une passion qu'il partage avec Flo. Hein, il a du courage, cet homme-là, quand même. Hein. Mais ici, il aime aussi la lecture, en tout genre.
Je pensais qu'il allait lire hier.
La littérature, la philosophie. D'ailleurs, il lit pas, il dévore. Il dévore des bouquins, un nombre incroyable par semaine. Non, plus maintenant.
Non, en ce moment, c'est la Bible.
Explique-nous un peu ce que tu vas faire ici.
Déjà, je vais me présenter.
Vous voyez, je vous avais dit qu'il avait l'air fatigué.
Avant de dire ce que je vais faire, je vais me présenter. Alors, donc, bonjour, eh bien, moi, c'est Numa, visiblement, je pense que vous avez compris. Je suis un homme de sexe masculin et j'habite Paris. J'aurais pu habiter Flo, mais c'était, ou Florence d'ailleurs, mais c'était plus loin. Donc pour me présenter, j'ai songé à un vieux jeu. Alors c'est tout bête, il suffit de dire des trucs que l'on aime et d'autres que l'on n'aime pas.
Voilà. J'aime pas, c'est ça,
ouais. C'est ça.
Ah ouais, putain,
voilà. Après à la télé.
Moi je connais Kiwi Ninon aussi.
Oui, oui.
Ah oui, oui, oui.
Et le magicien, c'était aussi joli. Voilà, ça commence. Alors donc j'aime pas le métro bondé. Voilà, j'aime pas la gonzesse assise sur le strapontin contigu du mien qui coince le duff le côte de ma copine dans le strapontin, c'est très pénible. J'aime pas être fatigué, j'aime pas être de mauvaise humeur, j'aime partager
nous
ma
plus,
table.
On n'aime pas quand t'es de mauvaise humeur.
Malheureusement, j'aime la potée au chou, mais j'aime pas les effets secondaires. J'aime le son du cuivre au fond des bois, j'aime le bus. J'aime pas quand il fallait s'asseoir au fond du bus. J'aime pas le sport, j'aime pas le foot, j'aime le rugby, j'aime pas les partous à plus de deux du même sexe. J'aime les troisièmes mi-temps, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas me lever tard, j'aime me coucher tard. J'aime me coucher tard aussi, ouais, pareil. En général, j'aime bien les gens, mais parfois, j'aime pas les gens. J'aime pas passer à la radio, surtout des poumons. J'aime bien écouter la radio. J'aime les livres qui font voyager, mais j'aime pas les catalogues jet tour. J'aime ma copine, mais j'aime pas son copain. Et j'aime bien ce jeu, mais quand c'est terminé, comme on dit en Bretagne, c'est Finistère.
Ah oui. Parce qu'en plus, nous
bien amené. Voilà. Oui. Donc, mais autrement, après, je vais vous parler de choses plus ou moins sérieuses, à savoir les livres que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus. Je peux parler aussi des journaux que j'ai lus ou que j'ai pas lus ou que je lirai peut-être. Je peux parler des faits d'actualité. Je peux parler des non-faits d'actualité, c'est-à-dire ceux qui ne font pas l'actualité, mais qui sont quand même des faits.
Alors,
je peux m'enflammer. Oui, et je peux m'arrêter
tout de suite,
aussi.
Tu ne seras pas le seul à parler pendant toute l'émission.
C'est pas moi.
Donc, choisis.
Mais moi, je voulais savoir à propos, tu dis que tu vas parler des livres que tu n'as pas lus et que tu liras peut-être, etc. Est-ce que si tu fais une mauvaise critique d'un livre que tu n'as pas lu, ça va t'inciter à ne pas le lire, du coup?
Fort probable.
Je confirme.
Eh bien... Eh bien, Numa, merci pour tout ça.
De rien.
Enfin, j'espère. Donc, et puis, donc, aujourd'hui, voilà.
Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas terminé les présentations. J'aimerais vraiment te connaître, ton verre.
Mais tu me connais, je suis assis en face de toi. Bon, d'accord, c'est pas très radiophonique. Mais d'abord, avant, aujourd'hui, on est 6. Et dans l'avenir, il y aura d'autres personnes qui vont venir pour nous parler d'autre chose, de musique, de sport. Parce que c'est bien le sport, il paraît, hein?
Ouais.
Disons qu'on a un chroniqueur sportif très drôle.
Il y en a qu'on.
Des gens qui vont nous parler d'histoire, des gens qui vont nous parler d'histoire drôle, et puis plein d'autres choses. Hein, ça va être génial.
T'as vu
TéléZ,
hein. Quoi.
T'as et puis bon. Donc il y a moi, alors personne m'introduit, moi, c'est pas très gentil.
Si tu veux, on peut.
Non, les gars, je vous parlais pas.
C'est un travail de fille.
Pourtant, on va faire ça. On va faire ça. Alors ton verre est grand, brun, beau. Alors ce qu'il faudrait pour vraiment vous expliquer comment il est, c'est le mimer. La sœur de Darty fait ça très bien, mais de toute façon, ça passe mal à la radio, même quand elle le fait elle. Ton verre, il écrit ses textes. Il a donc un prompteur papier sur lui.
Ouais, qui défile.
Il va être notre animateur parce qu'on a estimé qu'il était très très fort et puis ça lui fait plaisir. Et puis va se présenter une fois que Darty aura dit un petit mot sur lui quand même.
N'empêche que je tenais à préciser que dans tout ce que ma petite sœur a pu dire de ton verre, il y a quand même quelque chose qui parle très bien à la radio, qui passe très bien à la radio, c'est le fait qu'a priori il a la même voix qu'Arthur. Donc il se trouve que nous sommes équipés d'un matériel qui ne permet pas vraiment de reconstituer entièrement cette ambiance-là, et normalement, bref, bon, c'est un truc
c'est
pour reconnaître. Quoi.
Arthur,
Arthur,
qui s'amuse le soir en sortant du boulot.
Et qui a fait des progrès parce qu'il ne bégaye plus.
Oui, bah ça, on va voir.
D'accord.
Donc alors moi, effectivement, moi c'est ton verre, David ton verre, une sale blague que m'ont fait mes parents. David ton verre, vite ton verre, hein, vous voyez tout de suite où on veut en venir. Hein. De là à me traiter d'alcoolique, on n'aurait pas pu faire mieux. Bon, d'un autre côté, bon bref. Donc moi effectivement, je vais un petit peu essayer de suivre tout ce qui se raconte. Je vais poser des questions, parce que moi je suis très bête. J'ai du mal à comprendre, donc je pose beaucoup de questions. Les gens vont peut-être me donner beaucoup de réponses. Et puis voilà, ça sera très bien comme ça. Hein ? Mais oui. D'ailleurs, il y a un truc que personne n'a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie à part faire n'importe quoi devant un micro ? C'est intéressant ça.
Moi je fais du trombone, la cuisine, je dors, je lis.
Valérie.
Oui, c'est Valérie. Mmh. Et puis aussi, sinon, pour gagner de l'argent. Je tape sur l'ordinateur pour faire des calculs et puis je fais des réunions et puis je gagne de l'argent, comme ça c'est bien, voilà.
Et toi Flo, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Alors, je tenais à dire que les chroniques, films de choses schmurtz, poivre d'Arvor, tu te souviens du nom Manu?
Ah,
choses schmurtz, poivre d'Arvor, le fils poivre d'Arvor qui me pourrit toutes mes semaines au Monoprix parce que au moins une fois, toutes les 20 minutes, j'entends parler du film de la semaine, qui dernièrement s'est trouvé être le film qui m'intéressait. Oh, le film Monoprix. C'est vraiment, vraiment la dernière chose que j'ai envie de voir. Enfin, surtout, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'entendre la fin de l'histoire, la fin, la... Genre,
donc
vous savez,
alors,
à la fin du film,
le
héros de la chronique à Monoprix.
Je passe ma vie chez Monoprix, parce que chez Monoprix, vieux fille.
Il y a tout ce qu'il faut. Non, c'est pas le même.
Non, c'est chez Monoprix, Yavi.
Et toi, Béatrice? Alors, Béatrice, moi, j'aimerais quand même casser un petit peu le mystère. Béatrice,
c'est une... de la radio, justement.
Non, c'est une photographe d'intérieur. Alors, Béatrice, qu'est-ce que la photographie d'intérieur?
Oui, mais non, parce que en ce moment, je ne fais pas de la photographie d'intérieur. Je suis manip radio et j'irradie des cancéreux toute la journée. Donc, on va passer vite sur le sujet parce que c'est pas très gay.
C'est pas très gay.
Donc,
c'est
je dit regarde la télé. Je fais aussi du sport, je sors, je bois, je mange, comme tout le monde. Je regarde la télé.
C'est très bien. Et toi, Numa, que fais-tu dans la vie?
Je regarde pas la télé parce qu'elle est pas déballée.
Ah, elle est sous plastique.
Elle est sous plastique.
Et sinon?
Sinon, je m'amuse avec mon ordinateur. Et
pour gagner des sous
Je gagne pas de sous, j'ai un dédommagement hebdomadaire, non plutôt mensuel. Je suis charcutier chez Monoprix et ça paye pas.
Ah bah oui. Ah
bah, mais fallait s'en douter, hein, c'est la grande distribution.
Mais vous êtes rencontré chez Monoprix ou...
Pas tout à fait. De mémoire, nous nous sommes rencontrés au concours national des fanfares étudiantes à Poitiers.
Ah bah on doit avoir la même mémoire alors.
Je crois. je crois que tu y étais aussi.
C'est possible, mais on va nous égaler sur nos vies privées.
Non.
Et toi, Darty, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Bah moi, je suis très cohérent avec moi-même en fait. Je fais des chroniques sur l'informatique, donc je fais de l'informatique quoi. Je déroge pas à la règle. Hein.
C'est bien ça. C'est
voilà.
Bien.
Mais est-ce que ça aide les gens à bien vivre de faire de l'informatique?
Oui, bien sûr, oui.
Bah, surtout
tout à fait. Bah oui, à commencer par moi, exactement, t'as raison.
Et puis, moi, David, ton verre.
Non, on s'en fiche pour toi.
Oui, mais moi je m'en fiche pas, j'aime me le rappeler parce que des fois j'ai du mal à m'en souvenir le matin quand il faut y aller. Donc moi je suis dessinateur, projeteur en mécanique. Je suis concepteur de produits industriels, n'est-ce pas? Ça jette,
c'est
joli,
en fait, hein.
Je suis grouillot dans un bureau d'études, je fais des conneries. Je travaille avec ce que Monsieur Darty conçoit, ou ses collègues. Voilà. Bon, maintenant que vous nous connaissez mieux, enfin un petit peu mieux, on va pouvoir commencer pour de vrai. Donc on va commencer par les petites chroniques de tout le monde, et nous allons commencer par Numa.
Ah bah on commence par moi.
Oui. Bah ouais, ouais, mais je te l'avais dit avant. Hein. Faut pas le dire, mais je ne te dis pas que je te l'avais dit avant.
Non, mais d'accord, je ne savais pas.
D'accord. Ben c'est à toi. Alors tu vas. C'est quoi ta chronique aujourd'hui?
Je sais pas, j'ai trouvé un titre tout à l'heure. Je me suis assis dans un café et j'étais un petit peu pris de court parce que j'ai perdu le livre duquel je voulais parler. Je l'ai prêté ou alors je l'ai vendu. Enfin, je sais pas ce que j'en ai
fait. Mais attends, faut que je rende.
Oui, ça serait bien.
Tu l'as vendu à la place d'une tranche de jambon.
Oui, j'ai dû confondre. Alors, ça s'appelle pas d'ailleurs. On aurait pu l'appeler. Donc, ça commence le matin du jeudi 9 janvier aux alentours de 7h20. Alors, je sortais de chez moi, de mon appartement, j'allais embaucher. Alors, une cycliste, vêtue chaudement, ne s'est pas arrêtée au feu rouge à l'intersection des rues Gergovie et Losserand.
C'est incroyable, ta vie.
Absolument. Alors, une voiture de conception française, dont je tairai la marque, a ralenti. Je comprends. Pour ne... Bon, coupe pas trop, parce que sinon après ils vont pas suivre. Parce que déjà moi non plus. Alors, une voiture de conception française, dont je tairai la marque, a ralenti pour ne pas la renverser. Alors, je ne sais pas si cette jeune personne s'est rendue compte de la situation, la jeune cycliste, mais elle a continué son chemin sans changer d'allure, comme si rien n'était, comme ça. Est-ce le froid qui l'a empêché de freiner en lui engourdissant les phalanges? N'a-t-elle pas vu le feu tricolore qui lui demandait de stopper? Enfin bon, les règles de la circulation sont-elles différentes pour les bicyclettes? Je ne sais pas. Si la voiture n'avait pas voulu ou pu ralentir... Le mercredi 22 janvier, rue Gergovie, un motard a pris en sens interdit la petite portion qui rejoint la rue Losserand. Monsieur 165 Emerix 75 a considéré sûrement qu'il serait trop long de faire le tour du pâté de maison. Lentement, il a contourné la voiture, arrêté devant le feu. J'ai vu le regard surpris du jeune chauffeur, puis il a continué avant de monter sur le trottoir pour se stationner devant une boutique. Visiblement, il travaille ici. Il était sans doute pressé par le temps pour son travail. Il y a quelques mois, monsieur le ministre a fait un excès de vitesse. Arrêté par les autorités, il a sermonné, de par son titre, les officiers de loi qui l'ont verbalisé. Il était en retard à un rendez-vous. Il y a aussi ce jeune homme là, qui force le passage piéton alors que le bonhomme est rouge et que les véhicules pensent pouvoir franchir l'intersection en toute sécurité, sans récupérer de jeunes imbéciles sur le capot. Aucun de ces incidents, de ces petites incivilités, infractions, n'a eu le courage de se transformer en accident. Ce n'est pas toujours le cas. On roule vite, sous la pluie, dans le brouillard. On ne respecte pas les distances de sécurité, et puis c'est l'accident. Oh, la faute à pas de bol. On n'accuse pas souvent les morts d'avoir joué et perdu. On pleure les victimes, et c'est normal. Bon, je ne juge pas. Moi aussi, avec mon vélo, j'ai pris des sens interdits. Oh, pas vite, hein, sur le trottoir, en faisant attention. Moi aussi, j'ai grillé des feux avec mon vélo, avec ma voiture, sans le faire exprès, hein, mais je l'ai fait.
Tu voudrais bien rappeler ton numéro de permis de conduire? Ça peut servir à certains auditeurs.
Je l'ai pas sur moi. Là, je suis à Paris, mais je suis en métro. Là.
Il en a pas.
Non, je l'ai plus. Personne n'est exempt de reproche. Tout le monde, ou presque, a pris sa voiture avec un peu trop d'alcool dans le sang. Tout le monde, ou presque.
Pas un peu trop, beaucoup trop.
Ou beaucoup trop. Pas forcément complètement bourré, hein, mais 0,5 grammes, hein, ça va vite. Et puis, on va pas rentrer à pied quand même.
On va se faire une petite chasse et hop, on est au-dessus de 0,5.
Oui, mais on rentre en bus. Le sujet n'est pas clos, hein. Cette chronique n'est pas complète. Lire les nouvelles mesures gouvernementales, cependant, un peu moins d'égoïsme. Je ne suis pas le seul au monde, dans l'esprit de chacun, essayera un petit peu mieux. On a moins de klaxons dans les rues, ça ira mieux. Prenons le temps de vivre et de mourir. J'espère que demain, j'aurai droit de voir un joli accident en direct, parce que visiblement, j'aurais pu en voir beaucoup. Voilà, ça y est, j'ai terminé, et comme tout à l'heure, quand c'est fini, se taire.
Ah, on va nous le faire à chaque fois.
Ouais, alors, cela dit, moi je suis quand même un petit peu... bon, parce que, bon, le motard, faut le comprendre, quoi. Parce que c'est vachement dur d'être motard à Paris, quand même.
Oui.
Parce que tu veux te garer, c'est la merde. Mais c'est la merde au sens propre du terme, parce que tous tes endroits où tu pourrais te garer, tu peux plus parce que c'est plein de merde de chiens.
Oui, mais là, là n'est pas le propos. Il a pris un sens interdit pour aller se garer un petit peu plus rapidement devant l'endroit où
mais
il
allait. Mais si
de mauvaise foi. J'en sais quelque chose, je fais de la moto.
Mais s'il n'y avait que ça, parce que si tu fais ta chronique à montrer les gens qui grillent des feux rouges,
j'ai pas dit
on va faire toute l'année là-dessus. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Mais de toute façon, moi, tout le monde grille le feu rouge, même quand le piéton est déjà passé au vert.
Je voudrais effectivement
moi, je préfère griller les
merguez. Il faudrait peut-être qu'ils prennent aussi leurs responsabilités.
C'était juste une constatation. Mais
les constatations, là, je crois qu'elles suffisent plus. Maintenant, c'est une prise de conscience de chacun.
Ah, tu nous l'as mis en colère.
Ah ben oui, mais merde alors.
Oui, parce que effectivement, moi, toutes les deux minutes, je risque ma vie aussi, et pourtant, maintenant, je vais vraiment plus très vite.
Hein. Et moi, Béatrice qui me fait
de la moto. Elle va travailler en moto.
Et j'ai aussi une jolie poésie, hein, mais.
Finissons plutôt sur une poésie alors.
Ouais, une petite poésie, assez rapide. Poésie. Hein. Oui, alors, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir reconnaître un truc derrière. Alors, donc, ça commence par. Parce que c'est quand même un petit peu rigolo quand même. Ça commence par notre Père qui êtes aux cieux, que ton piston soit sanctifié, que la charrette règne, que tes bougies pètent sur les nationales comme sur les autoroutes. Donne-nous aujourd'hui notre super 98, pardonne-nous nos excès de vitesse, comme nous pardonnons aux feux qui nous ont arrêtés. Ne nous bloque pas dans les bouchons et délivre-nous des contraventions. Freine. Non, s'il te plaît, freine. Putain, mais freine, bordel!
Ah bah bravo! Tu vois quand tu veux. Bravo, bravo, bravo. Tu fais souvent des poèmes comme ça ou
Non, c'était un petit peu improvisé dans le bar où j'étais tout à l'heure.
Et sur la rue de Gergovie, tu vas nous raconter toutes les infractions toutes les semaines, non?
Toutes celles que je verrai.
Mais ça laisse beaucoup de temps libre, la charcuterie.
Visiblement.
Enfin, moi, je me posais aussi une question, c'est tu gueules contre les piétons qui traversent alors que le petit bonhomme est rouge. Mais si le piéton est rouge et que je suis habillé en rouge, je traverse. C'est normal, on me dit de traverser.
Non.
C'est quand quand je suis habillé en vert, je traverse en vert.
Ben moi, je raisonne
pas
comme ça.
Bleu, je traverse plus.
Moi, je raisonne pas comme ça. Moi, je raisonne moi, on m'a appris tout, etc. Quand tu vas aux toilettes, hein, t'as le petit symbole, les bonhommes pour les hommes, et puis les petites jupettes, machin, pour les femmes. Donc, moi, je vois un bonhomme marqué homme, je me dis, le piéton est pour moi.
Ah ouais? Ah non, moi, je réagis mieux que ça encore. Mais c'est Dieu, moi, j'arrive avec mes rollers, tac, sur le passage piéton. Donc, en tant que piéton, je vois le feu qui passe au vert, je suis à roulette, hop, je passe, comme une voiture.
Ouais. Oui, mais alors ça c'est trop facile parce que effectivement les gens qui sont en roller et même les gens qui sont en vélo, c'est vachement facile. Ils sont à la fois piétons, ils sont à la fois sur la chaussée, donc en tant que tout utilisateur de la chaussée, donc comme les voitures, les motos, ils sont rois.
C'est le réflexe con automobiliste. Tu arrives sur le trottoir et tout, tu es sur roue, t'es pas à pied, tu vois le feu passer au vert, tu passes. Manque de peau à ce moment, tu vois la voiture qui arrive, tu t'arrêtes.
Tu serais pas un peu con, Flo?
Oui, mais quand t'es en voiture, quand t'es en voiture, tu roules pas sur le trottoir normalement.
Non, quand je suis en voiture, je roule pas sur le trottoir. Quand
t'arrêtes d'aller au cinéma, toi. Hein. Ça donne de très mauvaises idées.
Ouais, je ne regarde pas.
C'est pas Taxi 3 ici. Hein.
Je ne suis pas une fan de ces films.
Oui, mais je suis sûr que dans certains films croates, il y a des gens qui roulent sur les. Ah non, il n'y a pas de voiture là-bas.
Il n'y a qu'à voir le film iranien, le fameux film iranien qui se passe dans une 205 du début à la fin. C'est une femme qui conduit en plus. C'est le genre de film que Flo va voir et que.
Toi aussi.
Et qu'elle imite ensuite.
Toi aussi, tu es allé.
Mais je me souviens plus le nom du film. D'ailleurs, je ne suis pas allé le voir.
Le film s'appelle Den de Vaskar Rostami.
Oui, c'est Kiarostami.
Ah bah, c'est Kiarostami.
Et c'est bien?
Elle l'a pas encore vu, je dois faire remarquer.
C'était ta prochaine chronique.
Voilà,
pardon.
Que le deuxième aspirant cinéma de la maison freine.
S'il vous plaît, on n'est pas là pour régler vos affaires de couple, merci.
Donc il y a un ABS sur la 205.
J'ai pas vu quel 104, film.
104. C'est une 104?
Oui. Donc alors, Dumas, tu as fini alors?
Oui, mais j'avais dit quand c'est Finistère.
Quand c'est Finistère, tu as raison.
C'est son jingle de fin.
Voilà.
Est-ce que tu as d'autres jeux de mots pour l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, tout ça? Parce que
mais attends, je vais y réfléchir, mais
Ille-et-Vilaine, je pense qu'il y a de la matière.
Oui, je pense qu'on va pouvoir trouver. Hein.
Morbihan aussi.
Mmh. Ouais, c'est la Bretagne.
C'est la Bretagne, quoi.
Quoi?
C'est vrai, ça j'oublie de le dire.
Oui. Quoique, d'ailleurs, Béatrice, en parlant de Vive la Bretagne, à toi.
Il me restait un dernier jeu de mots, parce que là, quand c'est fini...
T'as 10 secondes.
Quand c'est fini, mon verre, il y a poids de vin.
Ah, d'accord, merci. Donc c'est des...
Et voilà.
Des blagues in.
Ah bah oui.
À toi, Béatrice. Alors de quoi vas-tu nous parler, Béatrice, maintenant, tout de suite?
Bon, non. Bah, cette première émission est le prétexte pour moi de vous parler de la rentrée télé de ce mois-ci. Donc vous allez me dire, enfin peut-être, que la télé fait sa rentrée en septembre en général, comme tout le monde. Non, c'est pas ce que vous allez me dire? Non.
Bon, non, mais nous on n'est pas rentrés en septembre.
Et, oui, mais
on a fini l'école.
La vie est gérée finalement sur l'année scolaire. Enfin bon. Mais en fait, la télé fait aussi une rentrée en janvier, une rentrée où les chaînes profitent de la trêve de Noël, des vacances de Noël, pendant laquelle elles ont fortement perturbé leur programme pour s'adapter au rythme des jeunes vacanciers. Donc merci pour les autres qui bossent.
Perturber le programme, d'habitude. Moi je dirais pas ça comme ça, parce qu'elles n'ont pas tant que ça perturbé le programme, elles ont repris le même que l'an dernier.
Aussi.
Tous merci. Les ans, à Noël, on merci, reprend le même merci. Programme.
Oui, c'est sûr. Mais n'empêche qu'à la rentrée en janvier, du coup... Tout repart à zéro, ils modifient leur grille en fonction de ce qui a marché et de ce qui n'a pas fonctionné, puisque dans un monde où tout doit aller plus vite, deux rentrées sont largement nécessaires pour tout bouleverser en fonction de l'audimat, qui de toute façon est reine à la télé. Donc voici quelques changements que j'ai constatés. Donc je me suis surtout intéressée à la fin d'après-midi et à la soirée, parce que c'est ce que je regarde, parce que la journée je travaille quand
même. Tu n'es donc pas une ménagère de moins de 50 ans qui regarde
de plus de 50 ans.
Ménagère, t'as vu le bordel.
En repassant son âge.
Donc je vais commencer par Canal+, parce que cette chaîne, ce sont les rois du grand bouleversement de l'Access Prime Time, c'est-à-dire le programme en clair entre 18h30 et 20h30 à peu près, qui en fait est très important pour la chaîne, parce que c'est la vitrine de la chaîne codée, puisque bah, c'est ce que les gens peuvent regarder avant de s'abonner, voir si ça les intéresse déjà ou pas. Alors on a vu que depuis l'arrêt de NPA, rien ne va plus, les présentateurs sont sur siège éjectable, les programmes ont du mal à transformer l'essai, donc ils n'innovent plus, ou trop, on ne sait pas toujours très bien. Toujours est-il qu'apparemment, ils ont réussi à perdre l'esprit Canal, comme ils le disaient si bien. Alors les nostalgiques accusent J6M, Jean-Marie Messier, qui n'est pourtant plus d'actualité, peuvent accuser le capitalisme, la mondialisation, tout ce qu'ils veulent, enfin bref. De toute façon, ils n'arrivent plus.
Mais moi, je crois que c'est de la faute du capitalisme.
Oui, bah, faut bien qu'ils soient coupables de quelque chose.
Nous voulons des coupables.
Là, ils sont larges.
De oui, de
donc, pour
pourquoi
l'instant...
6M de oui, mais 6...
Ouais, bah, c'est j'allais la poser.
C'est,
si vous aviez la télé, vous le sauriez.
Voilà, Jean-Marie
mais
Messier.
Mais la télé, dois-je le rappeler, Jean-Marie est toujours sous plastique à la maison.
Jean-Marie Messier, maître du monde. Si tu comptes bien, ça fait 6M.
D'accord.
Voilà, c'est tout. Donc sur Canal+, actuellement, on a toujours un découpage des 2 heures de Claire avec une succession de journaux différents. On a le journal du sport, on a le journal du ciné, on a le journal des bonnes nouvelles qui apparemment marche assez bien.
Bon, donc on compte et on a compté 4M.
C'est mieux que la télévision. 4, ah, vous êtes toujours à J6M. Passons,
non.
Hein, non, c'est bon, il est parti, on est débarrassé.
Jean-Marie 4M.
Ok, si vous voulez. Donc, ça vous intéresse Canal+ ?
Oui.
Oui. Oui.
Bah moi pas tellement en fait, parce que à cette rentrée le truc nouveau c'est Mourad. Donc c'est la dernière
trouvaille. Ça fait un cinquième même.
C'est la dernière trouvaille de Farrugia. Moi j'ai pas franchement eu pour l'instant l'occasion de le regarder plus de 30 secondes. Alors je pense que c'est parce que ça m'intéresse pas trop.
Ça m'est kiffé de la radio ça Mourad.
Et ben bah, de toute façon son émission est effectivement une radio filmée et puis une radio de jeunes où ils n'arrêtent pas de brailler. Enfin je sais pas, ça m'a pas encore trop intéressé, donc j'en dirai pas grand chose.
Encore un qui l'a pas emballé. Hein.
De toute façon, moi à cette heure-là, je regarde Ruquier et sa bande sur France 2.
Bah, ça, si c'est pas de la radio filmée pour le coup.
Alors, justement, parlons de la radio, rentrée de France 2, où il n'y a pas forcément de grand chamboulement dans leur grille de programme. On garde donc, on a tous essayé à 19h. Avant, en début d'après-midi, on a le même schéma avec les séries, hein, la petite sieste sur Derrick, après le journal. Mais entre les deux, quand même, il y a un grand retour qui, personnellement, me fait extrêmement plaisir, mais c'est tout à fait personnel. C'est celui du Dr Green, Dr Ross, Carol, Carter. Donc, pour les connaisseurs, vous voyez bien que je parle d'urgence.
Pas bon pain, pas bon pain.
Donc, France 2 nous repasse depuis la première... depuis le début, nous rediffuse ça. Parce que les Français, apparemment, depuis la première diffusion en 1995, sont très fidèles à cette série. contrairement aux Américains qui apparemment boudent la 8e qui nous a été diffusée il y a quelques mois le dimanche soir, et apparemment même la 9e qui apparemment on l'aura en septembre.
Ah, il n'y a pas de 9e saison.
Chic, chic, chic. Non, 9e saison.
La 9e saison.
La 9e saison de Urgence.
Donc, une saison, c'est un an, c'est ça?
C'est une saison. C'est-à-dire que c'est une période. Non, c'est une période avec des acteurs qui veulent bien rester.
Mais j'ai pas bien suivi la 9e saison, mais moi je compte printemps, été, automne, hiver. Ça fait que 4.
Non, mais toi tu regardes pas la télé.
C'est parce que tu comptes mal.
C'est parce que tu connais pas Beethoven.
Non,
c'est parce que tu connais pas la télé.
Les saisons, t'as jamais regardé les Cités d'Or? Il y a des saisons et tout, les mecs. Ils...
En fait, la difficulté de la chronique sur la télévision, c'est que on est 6 là.
Et que nous sommes que deux à posséder une télé.
Voilà. Si, non,
c'est pas l'intérêt. C'est l'intérêt de la chronique.
Nous sommes les autres à avoir la télé sous plastique.
On est quatre à regarder. On est deux à regarder la télévision. Il y en a deux qui ont une télévision sous plastique.
Si tu me permets,
qui sont habillés en rouge.
Et si tu me permets, je voudrais quand même.
Nous tenions à faire savoir à ces gens de la redevance télé que la télé est sous plastique.
Sur les 6 personnes ici présentes, il y en a donc 2 qui la regardent. Et donc, si vous me permettez de remarquer que, comme par hasard, ceux qui la regardent, ils sont célibataires. Donc, c'est un petit peu ça aussi, la télévision. Parce que moi, je la regarde, les Français la regardent apparemment 3-4 heures en moyenne. Moi, je la regarde, en tout cas, je l'allume 6 à 8 heures par jour. Donc, je prends votre part.
Parce que c'est pas comme ça que tu vas faire des enfants.
Non, on va prendre les choses dans l'ordre d'abord. Enfin, bon, bref.
Enfin, nous, on fait pas d'enfants non plus, hein.
Je continue.
Mais nous, on est déjà habillés en rouge.
Je continue pour la deuxième chaîne, pour France 2. Autre nouveauté, c'est que tous les mardis soirs, ils vont nous faire une grande soirée cinéma.
Oh, le mardi.
C'est-à-dire, deux films, ou un film et le magazine, peut-être. Maintenant, tu regardes pas la télé. Comme au cinéma, qui est pas mal d'ailleurs. Il y a des acteurs qui parlent de leur métier.
Suivi dans la nuit de
courts-métrages. Donc personnellement, ça fait beaucoup pour une soirée parce que ça va de 21h à 2h du matin. Et donc tout le reste de la semaine, on n'a pas un film à se mettre sous la dent à part le dimanche soir. C'était juste pour dire ça.
Donc, jusqu'à quelle heure le dimanche soir?
Non, le dimanche soir, il n'y en a qu'un sur la 2.
Oui, non, mais les films, ça allait jusqu'à quelle heure?
Mais le mardi soir, ça s'arrête jusqu'à 2h du matin après les deux courts-métrages.
Le soir, donc
et comme
là,
par hasard,
c'est...
les courts-métrages sont toujours passés après minuit. Merci pour ceux qui aiment les courts-métrages.
Voilà. Et pour ceux qui travaillent le lendemain.
Pour ceux qui aiment les courts-métrages, il est à Paris Le D'Enfer, numéro 82.
Pour ceux qui aiment les courts-métrages et qui ont envie de rester chez eux parce qu'ils ont une bonne télé et un bon canapé.
Et pour ceux qui travaillent le lendemain.
Le grand écran.
C'est bien ça.
Alors, ouais.
Si.
Je peux juste faire une remarque, en fait, tous ces problèmes de télé sur à quelle heure passe telle chose et à quelle heure passe ceci, cela, etc. Le grand problème est un problème de décalage dans le temps des programmes, en fait, puisqu'on pourrait imaginer regarder le programme, en fait, l'enregistrer et le jouer après, en fait.
Moi, c'est ce que je fais. Mais...
Tout à fait. Mais tu pourras peut-être plus le faire bientôt. Ça fera l'objet d'une chronique plus tard, mais...
Non, mais on pourrait quand même... Enfin, les chaînes... À force de dire que les gens qui regardent la télé, c'est que c'est complètement con, la télé pourrait peut-être prendre le parti que les spectateurs peuvent très bien être intelligents et que si on leur propose des programmes intelligents et à de bonnes heures, ils vont être aussi intéressés que par les conneries qui sont passées à 20h30. Enfin, 21h. Donc, à propos de conneries, je vais vous parler de TF1.
Alors,
TF1, nous voulons des coupables.
TF1 a quand même quelques changements dans sa grille de programme en fin d'après-midi, puisque Star Academy a disparu du programme depuis le 21 décembre. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont mis à la place? Parce que ça faisait quand même depuis. Ça a duré 4 mois. Donc, ça faisait un manque à gagner quand même dans les programmes. Alors, pour 18h, ils nous ont pas remis le magazine poubelle exclusif. Ils nous ont trouvé à la place un nouveau jeu. Parce que les Français, en tout cas les téléspectateurs de TF1, ne peuvent pas se passer de Jean-Pierre Foucault. Donc ils nous présentent un nouveau jeu, qui est aussi crétin que les autres.
Le millionnaire 2.
Qui propose des questions pas forcément très difficiles, mais c'est qui est surtout basé sur le stress du candidat. Parce que dans... Non, c'est pas le million, c'est son bébé. Ça s'appelle Zone Rouge.
Et donc, t'as 1000 francs.
Oh, ouais, putain, ouais, t'as c'est dégueulasse, zone rouge.
Parce que j'ai regardé une fois quand même. Hein. T'as un candidat qui doit répondre à des questions pas forcément difficiles. Bah, ça dépend si on connaît la réponse. Forcément. Mais qui est branché sur un électrocardiogramme qui va donc montrer son rythme cardiaque. Plus il est stressé, plus le rythme cardiaque va s'emballer, forcément.
Moi, j'avais compris.
De toute façon, ce sont des jeux forcément importés, évidemment. Oui. Parce que TF1, à ton avis, a inventé beaucoup de choses ?
Non.
Surtout dans les jeux ? Bon.
Ah, c'est inventé la télé de maçon, quand même, TF1.
Bah, oui. La merde. C'est Camus qui l'a inventé, celle-là.
Donc voilà, c'est un nouveau jeu, franchement sans grand intérêt. Surtout qu'il est suivi d'un deuxième jeu, qui est toujours là à la rentrée. C'est le Big Deal, avec la gaffe, malgré les rumeurs de son départ. Moi j'attends toujours. Hein,
moi ce que j'aime bien dans les jeux à TF1, c'est qu'en général, les candidats sont incapables de vous dire qui a écrit Les Misérables, par exemple. Mais par contre, pour vous dire quel acteur joue le docteur je ne sais quoi dans Urgence, alors là...
Carla Bruni.
Non, ils ne vont pas parler d'Urgence, parce qu'Urgence, ça passe sur la 2.
Ils parleront
des sitcoms.
On voit bien que tu regardes pour la télé.
Pour parler voilà. Jean-Pierre Foucault, à l'époque où il faisait que de la variété, il était pas si mal que ça.
Jamais regardé.
C'est pas le pire.
Quand j'avais la télé, il était bien Jean-Pierre
Foucault. Non, il est finalement très sympathique. Mais c'est vrai que, bon, à la limite, ça peut être rigolo de voir j'allais dire le patient. Des
fois, mais t'as l'impression d'être à ton travail quand tu regardes cette émission, en fait. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui t'énerve. Dis-le, Béatrice, dis-le. Tu rentres du boulot et qu'est-ce que tu vois, un mec avec un électrocardiogramme? Non, mais c'est scandaleux, monsieur Foucault. Est-ce que vous pensez aux gens qui travaillent dans les hôpitaux toute la journée des électrocardiogrammes? Vous en foutez, vous? Ah là là.
Non,
c'est scandaleux. Je suis d'accord avec toi, Béatrice.
On est en train de dénigrer Foucault, mais il faut avouer qu'il a quand même un talent. Pour ceux qui connaissent Sergio, c'est qu'il a le même talent que Sergio, Foucault. Il sait jouer de la clarinette.
Non, c'est Christian Morin.
C'est Christian Morin.
T'as vraiment pas la télé, toi.
Ouais, alors tais-toi, parce que tu regardes pas la télé.
Oh là là.
Donc excusez-nous, nous allons la mettre au coin. Au coin.
Bah, alors, pense que dans ce cas, pour ceux qui connaissent Sergio, Jean-Pierre Foucault joue aussi bien de la clarinette que lui. Quand
d'accord,
même.
D'accord, là, d'accord. Pense,
oui. Ah, c'est fort probable.
Donc, je vois que TF1, ça vous intéresse énormément. Donc je vais continuer sur TF1 pour vous dire non pas qu'ils ont changé, mais au contraire qu'ils gardent toujours leur bouse d'émission en deuxième partie de soirée pendant toute la semaine, même en prime time d'ailleurs.
Tu parlais de bataille.
Alors prime ça donne time. Quoi bah, vous connaissez peut-être les noms des émissions, Vie ma vie. Hein, oui, l'émission où il y a des gens
non.
Moi je connaissais pas.
Mais si moi j'ai dit parle-moi, ils savent pas.
Non, ils savent pas, non.
Mais non, mais moi je suis preneur, j'ai envie de savoir.
Et ben voilà, je devrais quand même découvrir.
Moi je connais.
Dans la vie de Béa, donc.
Moi je sais pas.
Attends, c'est pour ça quoi.
C'est le principe de l'émission.
Ah complètement.
C'est le principe de l'émission. Sauf que nous on n'est pas assez différents. Mais par exemple, si tu n'aimais pas du tout mon métier, si t'en avais peur, eh bien je devrais t'inviter à venir passer une journée avec moi, mon métier. À la limite, ça peut être intéressant. Mais de façon filmée, je ne comprends pas qu'on puisse s'intéresser à des gens qu'on peut croiser dans la rue ou avec qui on travaille et qu'on aime les regarder.
Si.
Mais bon.
Parce que si un client qui sait combien il est con à la caisse pouvait devenir moins con en venant passant deux minutes à côté de moi, je les prends tous.
À ta place.
Tous.
C'est vrai, avec moi. T'as pas tort, ça pourrait permettre effectivement de... Mais il faudrait le faire pas qu'à la télé pour une émission.
C'est vrai.
Enfin bon, on me presse, donc je continue. Donc il y a toujours le lundi soir, il y a que la vérité qui compte. Donc les le super duo Fontaine-Bataille, où les gens viennent déclarer une vérité de leur vie, comme une proposition de mariage, un coming out, c'est très à la mode et puis ça fait vendre, ou n'importe quoi. Enfin c'est toujours aussi con.
Pendant ce temps-là, il y a mots croisés. Sur France 2.
Ah bah oui, heureusement. Ouais.
C'est
pas tous les lundis.
Moi, les mots croisés, j'ai pas la télé, mais je les ai aussi.
Enfin bref.
Mots croisés, moi, c'est le matin pendant ma pause.
On va passer vite sur les émissions de TF1 qui, de toute façon, se basent toutes sur le même principe. C'est de se servir des malheurs. C'est l'exploitation du malheur ou de la marginalité des gens anonymes. C'est la Real TV, c'est très à la mode, et puis c'est vrai que ça contente beaucoup de gens qui sont tout contents de passer à la télé. Donc je vais passer à la troisième chaîne, où il n'y a pas grand changement, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas trop perturber les ménagères de plus de 60 ans dans leur programme. Donc, question pour un champion, c'est toujours à 18h20 et c'est toujours avec Julien Lepers.
Et c'est ouais. toujours bien.
Attends, cela dit, moi, j'ai moins de 60 ans.
Et tu regardes Question pour ménagère. Un champion.
A priori, je suis un mec et j'ai déjà vu Question pour un champion.
Bah, moi, j'y suis même allé.
Les autres émissions que tu disais, j'ai pas
enfin,
vu.
Enfin, pas en candidat.
Trop fort.
Je vous rassure. Pas en candidat dans le public. Alors bon, la 3, pas de changement. La 5e, comme il n'y a pas grand-chose à critiquer, enfin, moi je trouve. Je passerai vite également, puisqu'il n'y a pas grand changement notable hein, de leur programmation. Les émissions, les bonnes émissions sont toujours là. Une seule petite info, apparemment Bruno Solo prépare d'autres numéros de son émission La Grande Razzia.
Alors c'est des one-man shows s'il s'appelle Solo.
Non, La Grande Razzia, c'est un principe d'émission assez sympa. C'est deux, trois personnalités qui vont avec lui dans un grand magasin de distribution de la culture, comme on dit. Et ils vont donc choisir des bouquins, des disques en parcourant les rayons et en parler pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas. Bon, c'est sympa.
Comme
qu'est-ce qu'on fait ? Voilà.
C'est ce qu'on fait.
Exactement.
Voilà.
Et donc je finirai par la 6e chaîne qui monte pas beaucoup, où les changements sont imperceptibles, si ce n'est le remplacement d'une vieille rediffusion, d'une vieille série, par la rediffusion
Zora
d'une autre vieille série.
Zora House ?
Non, 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 parce que non, ça ne les repasse pas. Parce que c'est vrai que la chaîne a une demi-douzaine
de
séries
la...
à nous faire apprendre par cœur quand même. Hein.
Oui,
donc,
mais
c'est, pas...
c'est polonais. Hein.
C'est pas Zora Larousse, c'est vous les connaissez toutes, la petite maison dans la pluie.
Colargolosi,
voilà. Madame est servie, Stargate, une nounou d'enfer, le Dr Quinn, enfin que du passionnant quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour des
les pubs
des 6 chaînes.
Il paraît que sur la 6, il y a des super indicatifs de pubs.
Est-ce qu'il y a la loi et la loi?
Ouais, il y a des nouveaux tous les 15 ans.
Non, attends, il y a
plein d'indicatifs. Ah, là, c'est que 10 ans.
D'accord. Il y a plein d'indicatifs de pubs. Sur
la loi et la loi avec le mec avec son boule, qui ressemble à un bulldog et tout. Et même dans le générique, c'est comme ça.
Ouais, bah, la loi et la loi.
Bah ouais, c'est
d'accord.
Mortel, ça.
Et le cheval qui parle, c'est déjà passé à la télé, ça? Parce que moi, je connais
aussi,
que le générique.
Aussi.
Mon cœur est chez les nudistes.
C'est pas une série télé, ça.
Dommage.
Mon cœur en Thaïlande non plus.
Perdu.
Donc bah, voilà.
Moi j'ai fini pour l'instant, donc la prochaine fois je vous parlerai, je sais pas, peut-être des pubs ou d'une émission peut-être intéressante que j'aurais
pu
voir.
Oui, une émission intéressante.
Mais il y en a.
Par contre, Béa,
Béa,
je veux dire un truc, c'est que bah, ta chronique sur la télé c'est vachement bien, mais si jamais la télé s'arrête, t'es dans la merde quand même pour trouver des nouveaux sujets.
Oh, bon, j'aurais peut-être des vieilles cassettes où j'ai enregistré la télé, puis je vous parlerai des cassettes que j'ai enregistrées sur la télé.
Ouais, c'est vrai, alors, d'accord.
C'est une bonne idée aussi. Donc d'ailleurs, toi, Darty, qui fait le mariole, on peut appeler ça comme ça. Toi, tu vas nous parler des claviers.
Ouais, je vais vous parler des claviers, ouais.
Christian Clavier.
Ça, oui, ça
non,
rien
non,
à voir
non,
avec
non pas lui, non. Les claviers.
Bah, son frère.
Vous avez tous utilisé un ordinateur, on vous dit.
J'ai plus utilisé les claviers d'un piano.
Voilà, non, mais moi, je vais vous parler des claviers d'ordinateur. Bon, je vais revenir sur ce qui a été dit au début de l'émission. Moi, je suis informaticien, machin, je gagne ma vie avec l'informatique. Mon loisir, c'est l'informatique, c'est simple. Donc, si je vous parle d'un clavier, c'est un clavier informatique. C'est vrai qu'il y a des claviers avec des touches noires et blanches qui sont utilisées en informatique,
c'est
mais
un
c'est
piano.
Bien. Voilà, mais il y a des claviers pour ordinateur de piano, en fait. Mais bon, mais ça dépasse le cadre.
Il
y a
des claviers de piano pour
donc,
ordinateur
bon, voilà.
Oui, touches noires et blanches,
c'est alors,
un piano.
Le saviez-vous quand même, le premier brevet sur le clavier a été déposé en 1713. C'est quand même balèze, hein. On n'y croit pas un truc pareil.
En
1713. C'est les machines à écrire en fait.
Ah oui,
c'est les premiers. C'est les premiers. Non, c'est pas Olivetti à l'époque. Mais franchement, bon, effectivement, c'était les machines à écrire. Donc 1713, 1808, première machine à écrire qui marche. C'est un truc italien en fait.
Donc en gros, Olivetti, ils ont inventé le clavier 85 ans avant.
Alors c'est ça qui est balèze, ils l'ont quand même breveté presque un siècle avant quoi. C'est quand même assez impayable. Donc les brevets, on en reparlera, et bon, bref, bon. En fait, le vrai départ de la machine à écrire, c'est 1867, c'est Scholz et... comment il s'appelle, lui, là ? Dillon ? Putain, et des noms pareils, ça n'existe pas, quand même. Bon, c'est les Américains, hein, c'est... Mec, bah, c'est fait avec des Européens, les Américains, alors ils ont les noms pas possibles, quoi. Des noms allemands, des noms espagnols, français, donc que t'arrives jamais à prononcer, quoi.
On dirait des gens qui font des formules de mathématiques.
S'il te plaît, Darty, ne dis pas tu n'arrives jamais à prononcer. Dis je n'arrive jamais à prononcer.
Ouais, alors vas-y, Glidden, vas-y. Fais le malin.
Glidden.
Bon, ça ira. Bon, bref.
Pas mieux.
Bon, n'empêche que, bon, la machine à écrire industrielle. C'est Remington. C'est un armurier, en fait.
Oui,
c'est un armurier, en fait. Comme quoi, tu vois, tu dis la littérature et tout, c'est des mecs qui faisaient des canons qui étaient derrière.
Oui, Remington, on en entend parler dans les romans policiers.
Remington, les... machin, tout. C'est,
oui,
hein,
la Remington Steel.
C'est le standard de la machine.
Une série télé aussi, ça.
Donc ça, c'est 1874. Et moi, je vais vous parler d'un truc, quand même, c'est la disposition des lettres. Sur...
Ah,
hein, tu vois.
Ah, AZERTY.
Voilà. Bon. Oui, au début, ça a été fait en ordre alphabétique, tu vois, les mecs, bon, A, B, C, D, E, F, tout, normal, bon. Et le problème, c'est que les gens, ils tapaient, et en fait, les machines, à l'époque, c'est des trucs mécaniques, bah, tu tapes trop vite sur les touches, et les... comment dirais-je, les tiges de la machine se coinçaient, en fait. C'est-à-dire que le truc, si tu tapes... enfin, si, mettons, je sais pas, trouvons des lettres qui sont les unes à côté des autres, par exemple F et E, si tu tapes F, E rapidement, l'une à côté de l'autre, et bien en fait, les deux trucs, ils se coincent, et puis bah, ça fait un caca, t'es obligé d'arrêter la machine, tout. Baisse de productivité, pas bon.
Mais donc, ça pourrait être... rebooter et tout, c'est
ce qu'ils ont fait.
Ça
ce
pourrait être
fait.
Une règle oulipienne, ça, de faire un texte sans mettre de lettres consécutives de l'alphabet à la suite.
Quand elles étaient en ordre alphabétique, elles étaient en une ligne ou elles étaient déjà...
Non, elles étaient décalées. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils ont mis en place le clavier QWERTY, en fait. Et l'idée du clavier QWERTY, c'est que deux lettres qui sont côte à côte ne sont jamais tapées consécutivement.
Oh, ça, c'est malin, hein.
C'est malin, hein.
Comme XY.
Bah, je sais pas s'ils sont ensemble. Attends, je vais regarder sur mon calepin.
C'est pas très vrai, parce que quand on écrit « j'ai un clavier QWERTY sur un clavier QWERTY », et eh ben on tape QWERTY avec les lettres alignées qui sont sur le clavier QWERTY.
Il faut le taper sur un AZERTY.
Ouais. Ah. Non mais laisse tomber.
Oui, mais si on tape AZERTY sur un...
Bon, bref.
Il y a le R, le T et le Y.
Donc bon, la contrainte, c'était grosso modo de faire le clavier le moins utilisable, c'est-à-dire que les lettres qui sont tapées à la suite, faut qu'elles soient le plus loin possible.
Ah, moi, je pensais que c'était à cause des doigts.
Non.
Je veux dire que le A, on l'utilise beaucoup.
Non,
s'il était, s'il tombait sur le petit
justement,
doigt,
non.
C'était pas bien.
Non, non. Justement, la contrainte, là, c'était... Si la lettre, si les lettres, on les tape les unes après les autres, eh ben, il faut qu'elles soient très très loin sur le clavier.
Okay.
Donc, grosso modo, ça, c'était 1872. Alors, après, c'est posé la question d'adapter ce truc-là au modèle français, parce qu'évidemment, ça, c'est calé pour les Anglais.
Très important.
Il fallait faire ça pour les Français. Alors, il y a une commission qui a été nommée, commission Albert Navarre, 20 experts. Les mecs, ils sont mis à 20 quand même. Hein. Attention, hein, les mecs.
Ils sont mis au 20.
Bon, ils étaient en retard, ils ont pas réussi à mettre en place un truc. Donc, grosso modo, ce qui a été mis en place, c'est le clavier AZERTY, qui est une modification.
Et le clavier AZERTY, un clavier AZERTY en vaut deux.
Ah,
passons. Tu me l'as piqué là.
Ça fait rire les filles.
Allez, bon.
Non, mais là, on me l'a piqué.
Donc, bon, on a eu l'AZERTY qui est grosso modo un succédé du QWERTY, mais bon, une modification mineure. Et avec tous ces putains de claviers qui sont hyper difficiles à manipuler.
Je pense qu'on va censurer,
oui,
là, il a dit
avant
putain.
Ça, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi. Sur un QWERTY, quand tu veux faire un...
Oui, il va peut-être pouvoir t'expliquer si tout. Tu le laisses parler.
Mais parce que pour l'instant, il est qu'en 1872,
bon,
en 1872,
alors,
il n'y a pas d'arrobase.
L'arrobase, on va dire que l'arrobase viendra dans une deuxième partie. Maintenant, on parle des lettres.
Bon,
voilà.
Je te
A, B, C, D, jusqu'à Z.
J'ai une question terrible à poser à propos de l'arrobase.
Bon, d'accord, ok, on verra tout à l'heure. Bon, alors... voilà, parce que bon, avec tous ces claviers pas pratiques là, avec tous ces claviers pas pratiques, on s'aperçoit que les gens ont mal aux mains maintenant, ils ont mal aux poignets, et il y a une maladie qui est quand même, on déconne pas, hein, c'est un trouble musculo-squelettique qui s'appelle le syndrome du canal carpien, et c'est un truc, c'est une maladie qui.
Mais c'est une maladie des carpes, donc.
Non.
Non.
C'est
du canal carpien. T'as mal entendu. J'ai pas dit carpe, j'ai dit canal carpien.
C'est quand ça comprime.
Du canal où passent les carpes.
Non, où passent les nerfs et ça comprime le tout. Mais il n'y a pas que ceux qui tapent sur un clavier d'ailleurs. Qui
exactement. Exactement. Il y en a plein d'autres.
Il
va falloir
arrêter de taper sur ta femme.
Ça touche énormément les femmes après la ménopause, etc. Il y en a pas mal de.
Maintenant, il y a une opération géniale, mais bon.
Les femmes ménopausées qui tapent sur un clavier.
Aux États-Unis, il y a quand même 5% de la population qui est atteinte par ce truc.
À cause des claviers.
pas à cause des claviers, de manière globale.
Les ergonomes qu'on essaye de poser le poignet sur le bureau, c'est-à-dire de ne pas mettre son clavier trop près du bord du bureau pour avoir la place de poser les avant-bras. Et ça évite un certain nombre de problèmes.
Exactement. Mais maintenant, en fait, c'est reconnu comme maladie professionnelle aux US. Donc ça va foutre.
Ils sont passés après.
Et ça a été, pour certains employeurs, maintenant ça a été interdit, un motif de non-recrutement, en fait. C'est-à-dire que si on est atteint de... du syndrome du canal carpien, et ben hop, on n'est pas recruté. Imaginez un petit peu.
Il faudrait mieux leur payer l'opération. Hein, c'est juste une petite incision.
Complètement. Alors, moi je dis que, là, franchement, on se dit. Moi je pensais que ce qui était dangereux au travail, c'est de se balader sans casque sur un chantier, de se prendre un marteau sur la tête, etc. Ben non, en fait. Tu tapes sur un clavier QWERTY, t'es obligé de lever les doigts pour aller attraper les touches qui sont pas pratiques, et puis pof. Et voilà. Donc, par contre, on pourrait se poser la question. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question d'améliorer la situation, etc.
Moi, je pense qu'il y a un gros problème d'ergonomie aussi avec les claviers. Je voudrais en parler tout de suite. C'est Windows. Windows, en effet, pour démarrer quand on est sous NT, pour se loguer, il faut faire CTRL-ALT-SUP. Et donc, il faut faire une gymnastique avec ses doigts qui, à mon avis, est très mauvaise pour le canal carpien.
Ça, c'est faux. C'est faux parce que ça a été fait effectivement pour que tu ne puisses pas le faire par erreur. Mais normalement, tu peux le faire avec les touches de droite facilement, avec juste une main.
Ah, donc tu le fais mal quand
même. Bon. Moi qui suis QJET, c'est pas facile.
Faut pas le rapport.
Donc bref, il y a un mec qui s'appelle Dvorak, qui est un gars super
musicien,
sympa.
Hein.
Non, justement.
Ah, si,
si. Pas le musicien.
On vote. Dvorak, c'est un musicien.
Dvorak.
Il s'appelle Dvorak, exactement.
Ah bah bon, bah, c'est pas le même.
C'est pas le même. Je viens de le dire. Donc, qui a mis au point son clavier, Dvorak. Évidemment, forcément, c'était Monsieur Dvorak, donc il a fait le clavier Dvorak. Quoi.
D'où QWERTY?
Non, c'était pas Monsieur QWERTY, je vous l'ai dit, c'était Remington. Et donc, en fait, lui, c'était un prof américain de stats, et il s'est dit, bah, en fait, je vais faire un clavier efficace, un clavier où tout va être optimisé et on va taper rapidement les trucs. Et donc, en fait, ça marche bien. Ça marche bien parce que les 8 touches de base, en fait, les 8 touches de base, c'est vous enlevez le pouce, en fait. On considère que le pouce, à la limite, il est sur la touche espace. Et on a donc 8 touches, en fait, pour les 8 doigts. Donc, les 8 touches les plus utilisées pour la langue anglaise, avec un clavier de Dvorak, elles sont utilisées à 60% contre 25% avec un clavier QWERTY. Par exemple, le E, sur un clavier QWERTY, bah, dans QWERTY, il y a E. Donc, oui, E, il n'est pas dans les touches de base.
Ouais, il est tout en haut, et c'est vrai que c'est pratique.
Et donc, typiquement, sur un clavier de Dvorak, en fait, les touches à gauche, c'est A, O, E, U, donc les voyelles courantes sur les doigts de gauche, et puis à droite, c'est H, T, N, S, donc pour l'anglais, tout ça va bien, etc. Et puis, bon, les touches, c'est bien disposé.
Excuse-moi, Dard, est-ce que tu pourras mettre en ligne quelques photos de tout ce que tu nous
racontes? J'ai choisi un sujet visuel exprès. Hein.
Parce que ça va être très dur, comme ça, les gens en train de... T'imagines les gens en train de dessiner chez eux?
Moi, j'essaye de jouer aux chiffres aux lettres.
T'imagines des gens, toi.
Je sais pas si vous avez essayé, mais ils nous proposent 8 lettres. C'est le moment d'essayer de jouer aux chiffres aux lettres avec A, E, O, U et H, T, N, S. Mais c'est pas facile.
Bon, bref. Donc, grosso modo, ça a été un bide fantastique parce que des claviers de Dvorak, je pense que personne parmi vous n'en a vu. D'ailleurs, moi-même, j'en ai jamais vu, à part sur Internet, dans des documentations, des fois. Mais sinon, en vrai, j'en ai jamais vu. Mais je pense qu'un jour, j'en aurai un, mais bon, pour l'instant, non. Donc, c'est un exemple typique de l'échec technologique, alors que, enfin, une technologie médiocre, le QWERTY, qui n'est pas du tout adapté, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de machines à écrire mécaniques, quand même, et qui est dominée par le QWERTY. Bref. Et en plus, il y a des gens fantastiques, des Français qui ont fait le clavier de Dvorak français. C'est-à-dire que,
quand même.
Déjà, le Dvorak anglais n'était pas utilisé. Ils ont fait le Dvorak français en plus.
Mais ça, c'est l'exception française.
Ah, l'exception culturelle.
C'est un petit peu comme le langage LM, turbo-pascal français.
C'est un peu ça, ouais. Et donc, les gars, en fait, bon, tu ne trouves pas de clavier de Dvorak français. Ou alors, bon,
de Lyon.
J'ai peut-être mal cherché. Hein,
quelles sont les 8 lettres? Alors, tu ne les sais pas?
Alors, si. Bah, tiens. Ouais. Alors, les 8 lettres, à gauche, c'est O-A-U-E. Et à droite, c'est TN. Non, c'est. Pardon. STDN. Bon, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence. Il y a le D à la place du H, mais c'est vrai qu'on peut se dire que dans le français, quand même, le D à la place du H, c'est quand même pas mal. Quoi.
Ouais, le D, on en a beaucoup.
Hein, c'est vrai que le H, bon, à part pourrait dire T, D. Mais c'est un truc d'anglais, bon, par exemple, tu vois, donc ça ne sert pas.
Le H, à part pour rigoler, c'est vrai.
Est-ce que ça serait pratique de faire des claviers genre nique ta mère Alors ta voilà. Mère en slip au monop.
Alors justement,
il y aurait plusieurs fois la même lettre, mais quand même,
pour faire le devant
et
ça,
le clavier avec la bonne conjugaison, les accords et tout, ça serait pas mal quand même.
Alors ouais, effectivement. Alors, en fait,
et il dit effectivement en plus.
Aujourd'hui justement, et j'y venais au Dvorak FR, en fait, le grand truc, c'est que c'est les mecs qui ont imaginé ça. Mais en fait, il n'y a pas de clavier comme ça qui existe. Donc, en gros, il te faut le programme avec qui te paramètre le truc. Et pour savoir ce que tu tapes, eh ben, tu colles les petits autocollants. Donc il y a des mecs, c'est très sérieux, hein, qui te vendent les petits autocollants, les petits stickers à coller sur ton clavier pour faire ci, pour faire machin et tout. Donc il y aura en ligne après les adresses de ces mecs là mais c'est un commerce, hein, je veux dire, c'est un business model embêtant, hein, c'est sûr.
Super.
Donc grosso modo, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Le QWERTY, on a le QWERTY, l'AZERTY, c'est le bordel. Parce que bah, grosso modo, il n'y a aucun standard qui a été mis en place. Moi, il y a des AZERTY français, belges, canadiens.
Oui, alors justement, me brûle une question. Ils font quoi, les Italiens et les Allemands? Parce que c'est bien gentil.
Ils ont leur clavier à eux. Ils ont leur clavier à eux. Chacun a sa version. Moi, j'ai regardé sur mon système, qui est un système Unix, il y a 89 versions de clavier différents.
Ah, quand même.
Les Chinois, les Japonais, oui, quand ils veulent taper un kanji, comment ils font? Eh ben, en fait,
ils tapent deux lettres
et ça fait une combinaison de lettres.
Oh, ils tapent deux lettres,
donc imagine les combinaisons.
Et les Allemands, ils ont quoi comme
clavier? Et quand tu tapes, il y a certaines fois quand tu tapes un backspace, quand tu veux effacer un caractère, et ben ça efface qu'un seul caractère. Donc du coup, tout le reste est décalé, donc ça change tout ton texte. Donc faut les effacer par deux. Enfin bon, maintenant ça a été corrigé, mais c'était comme ça à une époque.
Les Russes, ils ont vachement plus de lettres que nous.
Non, pas trop, ça va à peu près. Alors en plus, de toute façon, on s'est emmerdé avec tout ce genre de clavier, mais de toute façon, maintenant les ordinateurs portables, il y en a de plus en plus. De toute façon, sur un ordinateur portable, les lettres, elles sont réarrangées. Donc ça change rien. Donc tant qu'il y a à faire, on aurait quand même pas pu se mettre tous au Dvorak pour être tranquille. Parce qu'en plus il y a les téléphones portables. Maintenant tu regardes les téléphones portables, c'est ABCD machin etc. C'est dans l'ordre. Oui. Et puis il faut taper trois fois pour machin et tout. Donc c'est encore plus compliqué.
Ah sûrement.
Ah je suis désolé. Ah ça arrive au meilleur. Et ensuite.
Aux autres aussi.
Typiquement sur les systèmes comme Windows par exemple, on a le clavier virtuel. Le clavier virtuel. Le truc qui est. Il faut carrément prendre sa souris pour aller chercher les touches.
Oh l'horreur!
Aller les chercher à l'écran.
La table de caractère, c'est ça?
Ouais, la table de caractère.
Si t'as pas la bonne police, la table de caractère marche pas et tout.
Mais que fait la police?
Alt 0216, ça fait le symbole diamètre.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut piloter, la souris avec le clavier.
Mais pas sur toutes les tables.
Parce que la manipulation de la souris, ça fait mal à la main aussi, apparemment.
La manipulation de la souris peut se faire au clavier, il suffit de le paramétrer et à ce moment-là, on déplace la souris avec les flèches. Et donc avec les flèches, tu vas aller déplacer ton pointeur de souris pour aller chercher une touche sur les claviers virtuels. Oui, on se demande où est-ce que ça va aller quand même. À un moment, c'est le merdier quand même. Hein. Franchement,
avec son clavier, on va commander la souris pour aller faire une commande.
Si on aura marre de ces conneries virtuelles et on ira dans le.
Bah,
t'as beau être animateur, c'est pas une raison pour couper la parole aux gens. Hein.
Bah, tu vas couper la parole là. Au coin.
D'accord.
Bon, alors,
un instant, on fait une petite pause, on se bat et on revient.
Ouais, le truc que j'aimerais bien avoir quand même, moi je suis peut-être un peu naïf, c'est le clavier universel. C'est-à-dire que par exemple, j'ai mon téléphone portable, ça me fait chier d'envoyer des SMS parce que franchement, aujourd'hui, pour envoyer un SMS, faut avoir vraiment envie de draguer quoi. Faut être motivé quoi, faut avoir envie, faut avoir du temps, faut être étudiant, tout. Enfin, ça tombe bien, c'est là que t'as envie vraiment de.
Jeune, c'est glandé sur un banc.
Il n'y a pas qu'à ces moments-là que t'as vraiment envie.
Il y a des gens qui ont plus de 30 ans qui draguent quand même, mais. Bon, peu importe.
Qui ont vraiment envie.
Ou con que ça à faire.
Et donc, je me dis, moi, c'est un fantasme que j'aimerais bien là-dessus. C'est avoir, genre, sur le téléphone portable, un petit connecteur et je peux brancher un clavier dessus. Et là, je tape des super SMS et tout.
Ça existe?
Non, tu branches un ordinateur dessus.
Non, il y a des portables avec un clavier que tu peux brancher dessus.
Et c'est un clavier spécial ou c'est un clavier normal?
C'est un clavier normal. C'est un petit clavier normal.
Ah, c'est un petit clavier normal, mais c'est pas un clavier standard.
C'est comme Christian Clavier, c'est un acteur normal, mais petit.
Voilà, parce que justement, dans la série des...
Avec un grand nez.
C'est comme Christian Clavier, c'est pas très drôle ce que tu racontes.
Et c'est tout petit.
Donc ça, c'est le genre de choses que j'aurais bien aimé avoir venir moi sur les claviers. C'est quelque chose. Je puisse brancher un clavier sur n'importe quoi, sur n'importe quel truc. Et en fait, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme innovation récemment?
Si tu veux me parler, t'as pas besoin de me brancher un clavier. Hein.
Ils ont changé la taille du connecteur. Par exemple, grosso modo, avant il y avait un connecteur avec tant de broches machin. C'est l'ancien connecteur clavier. Ils l'ont changé. Ils ont fait un connecteur PS2 super. Ça a vachement augmenté les possibilités. Et maintenant, on a même des claviers USB.
Oui.
Ah bah, disons, avec ça.
Traduisez-moi là.
Le PC communique
bah, ça change de forme.
Avec ton clavier.
C'est comme avant, mais sauf que c'est pas la même forme de connecteur. Tu peux pas brancher l'ancien sur le nouveau.
Et donc, voilà. Donc
comme
c'est
pour Internet ultra rapide.
Mais ça, c'est fait exprès.
Il donne.
C'est le progrès. Tu peux rien.
Oui, parce que le progrès, plus on progresse, plus on doit racheter tous les 3 ans.
Exactement,
les trucs
exactement.
Voilà. Le progrès, c'est USB.
Ils ont fait aussi des trucs. Ils ont fait aussi des trucs fantastiques. Des claviers en 3 volumes. Alors évidemment, c'est pas visuel. J'avais des photos, mais des claviers en 3 morceaux, etc. En 2 morceaux, en partie, en truc, en bidule. Bon, ce qui est rassurant, c'est que commercialement, ça fait des bides. Grosso modo, les gens continuent à acheter des claviers normaux. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont fait des claviers sans fil qui posent des problèmes de sécurité.
Je me souviens des claviers qui étaient coupés en deux, là, orientés.
Tout à fait, c'est de ça dont je parle, ouais.
C'était terrible.
Voilà, ça. Mais ça va faire un bide. Hein.
Et les claviers en couleur, ça c'était beau.
Ouais.
Au moins les lettres étaient dans le bon ordre.
Avec vue ergonomie, je vois pas trop l'intérêt.
Et si on branche bien son clavier, est-ce qu'on peut parler comme Louis de Funès?
C'est-à-dire?
Ben, je sais pas, moi je me souviens d'avoir vu Christian Clavier, il parlait comme Louis de Funès, donc si tu branches bien ton clavier, est-ce que tu peux parler comme Louis de Funès?
C'est impossible.
Ça c'est de l'humour drôle.
Mais Numa est débutant.
Numa est spécialiste en humour drôle.
Non, il est débutant.
Non, je suis débutant en humour.
Donc bon. On est grand spécialiste en humour drôle, enfin bref.
Donc bon, franchement...
Ça me rappelle l'histoire du fou qui repeint son plafond.
Pour être très concret, moi, ce qui me plaît bien, c'est à la limite le genre d'interface que j'ai avec mon micro-ondes.
C'est concret, il faut que tu sois là, c'est rapide.
À savoir deux boutons, un bouton qui chauffe, un bouton qui règle la durée. Et bon.
Ouais, nous aussi, on aimerait bien avoir un bouton qui règle la durée. Hein.
Oui, s'il vous plaît. Donc moi, bon, je vais conclure. Je vais dire que, grosso modo, les claviers, c'est un truc.
Un bouton qui
pour les standardiser, aujourd'hui, c'est mort. C'est devenu un truc compliqué, alors qu'à la base, ça devait quand même pas être si dur que ça. Et grosso modo, ce qui nous reste maintenant comme marge de progression, bah, c'est des innovations du type, je sais pas, peut-être qu'on aura un jour un clavier chauffant, un clavier qui vous envoie des charges électriques quand le patron il arrive, couplé à une caméra, un truc qui te réveille et qui t'empêche de glander au boulot.
Un clavier qui fait semblant que t'es derrière ton ordinateur quand tu vas faire pipi.
Mais grosso modo, je pense que vous pouvez tous être confiants, à mon avis, dans 10 ans, si je fais la même chronique, j'en aurai 3 fois le plus à dire.
Ça c'est sûr.
Ben, on se revoit dans 10 ans. Merci Darty. Ah, c'était très bien, vous pourriez applaudir.
On a adoré.
Ah, voilà. Alors maintenant, Flo, qui va nous parler d'un film qui s'appelle Félan, un truc comme ça, qui vient d'une chez... on ne sait pas d'où d'ailleurs, ça vient d'où ça?
Attends, Félan.
Et pas de Félan comme Bray, comme l'âne ou autre, rien à voir. Un film qui pue, comme on vous en a prévenu, vu à l'entrepôt, petite salle perdue dans le 14e arrondissement, 4 personnes dans la salle, à savoir Numa, là, la bestiole assise à côté de moi, enfin le chroniqueur radio qui vous a parlé de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Moi-même, ceux qui restent...
Et vos deux jumeaux.
Non, deux personnes inconnues dans la salle, deux personnes n'ayant rien à voir avec nous.
Tes jumeaux, tu les connais pas, ils sont pas encore nés.
Bon, c'est vrai. Deux personnes n'ayant rien à voir avec nous, cela dit.
Enfin, si tu nous avais invités, on aurait été 8, quoi.
Ouais, d'accord. Nos problèmes. La prochaine fois, nos problèmes.
Non, c'est pas la peine.
Non, faut pas y aller. Hein.
Je ne vous ai pas dit. Le but de cette chronique est de faire, d'ici la fin d'année, une personne de plus dans une salle d'arrêt. Une. Si j'arrive à en convaincre un de vous, j'ai gagné. Donc, le film est d'un réalisateur nommé Song Hae-sung. Je pense quelque chose comme ça en coréen.
Samsung.
Son Hae-sung.
Qui fait des télés et tout là.
Il y a something like this. Ouais. Pardon my Korean. Mon coréen n'est pas au plus haut point. Interprété par un certain Lee. Non, pardon. Ça,
Harvey
c'est...
Oswald.
Par un certain. Chomi Sink.
T'as mis le nom en bas de ta feuille alors que tu débarres, tu lis de haut en bas, tu lis déjà de bas.
C'est vraiment dommage pour les auditeurs qui ne vont pas être très nombreux.
C'est coréen.
L'écriture de Flo, c'est tout un roman déjà. Elle écrit, c'est superbe, mais alors complètement illisible. Hein.
Ouais. Oui, mais c'est pas toi qui lis.
Et puis elle écrit tout petit et tout en une page, elle nous a fait les Rougon Macquart, là c'est terrible, on a peur. Et il y a 2 pages.
Donc je disais donc il y a certains Choi Mi-sink, pour ceux qui n'arriveraient pas à comprendre mon coréen épouvantable. Choi Mi-sink est le héros du film Héros de femmes et de peinture. Cette affiche pornographique, vous avez peut-être remarqué dans les métros, enfin, et dans les salles de cinématographie, où l'on voit une jeune femme assise sur les genoux d'un homme et que l'on pourrait croire en train de la serrer très fort dans ses bras comme quelqu'un de tendrement amoureux. Or, c'est quelqu'un d'extrêmement tendrement amoureux, parce que lorsque l'on a vu le film, on se rend compte que l'on assiste à une scène hautement érotique.
Il y a des enfants qui écoutent, hein, s'il te plaît, Florent.
Extrêmement érotique. Oui, oui.
Ils aillent se coucher, moi ça m'intéresse.
Non, mais il s'apprend par derrière. Moi j'ai vu le film, il
voilà.
S'apprend
mais
par derrière.
Ils sont tellement habillés que l'on ne s'en rend pas compte. Et c'est une image de pornographie extrême qui passe là sous les yeux de tous sans que personne ne se rende compte de rien.
Sous les yeux de tous les quatre spectateurs, hein, quand même.
Non. Tout spectateur traversant les couloirs du métro parisien ou allant vers une salle de cinéma regarde une scène d'une pornographie extrême sans s'en rendre compte.
C'est sûr que par rapport à beaucoup d'affiches publicitaires, c'est sûr qu'ils vont pas s'en rendre compte.
Ah, c'est sûr, parce que là-dessus ils sont habillés, mais tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de se mettre à poil pour faire la.
Mais attends, cela dit, là, t'écris en hiéroglyphe chinois direct ou c'est de l'alphabet romain?
Elle a traduit le film coréen.
Mes hiéroglyphes chinois viennent de la troisième génération de ma grand-mère shanghaïenne.
Bon, d'accord.
Donc, je disais donc, acteur Choi Mi-sink.
C'est pas toi qui lis sa chronique.
S'il vous plaît, messieurs, dames.
L'acteur principal s'appelle Choi Mi-sink. Choi Mi-sink a été donc vu dans le livre de femmes et de peinture où il interprète de manière absolument incroyable le rôle d'un peintre chinois.
C'est pas comme ça qu'il fait l'âne.
La jeune actrice Cecilia Chung. Elle chinoise qui a été vue dans Shaolin Soccer, dont je ne vous le parlerai pas puisque je n'ai pas vu le film.
On n'a pas le temps en plus.
Impeccable. Et donc, alors, ce qui est très intéressant avec Fenan, c'est que Fenan est un film assez étrange en fait, puisque l'héroïne n'apparaît qu'au début du film et vers le tout milieu du film. On voit apparaître comme ça tout d'un coup une jeune femme qui descend à un aéroport, etc., etc. On se dit, tiens, nous allons suivre son histoire, et pouf. Sortie de l'aéroport, nous n'entendons plus rien parler de cette jeune femme. Et pour la simple et bonne raison que l'on glisse dans la Corée où on suit un gang de mafia.
De yakuza.
Non, puisqu'on est en Corée, alors je suis pas sûre que
c'est pas des yakuza, mais c'est les mêmes en coréen.
Voilà, ouais, c'est une espèce de bande de coréens mafiosos. Et on suit l'un d'eux qui sort de prison, qui. Négligé par tout le monde, personne ne s'occupe plus de lui, c'est plus qu'une espèce de merde, enfin bref. Ce qui est impressionnant dans ce film, c'est qu'on note une certaine violence, on a l'impression d'être dans un film à la Kitano, on se sent dans un Kitano, mais sans... Il manque le petit côté japonais, parce que...
C'est coréen.
Parce que, pour le dire, il faut le reconnaître, j'ai du sang chinois dans les veines. Non, je vais réveiller les anciennes querelles ancestrales.
On mange chinois chez toi ?
J'ai du sang chinois dans les veines. Je suis habituée à entendre du chinois depuis très longtemps. Et le chinois est beaucoup plus agréable à entendre dans ses oreilles que le japonais. Et là, comme c'est bizarre, dans ce film, on n'entend pas parler japonais. On n'entend pas la musique du... Enfin, la musique, si, on peut parler de musique du japonais. Des gens ne parlant ni japonais, ni chinois d'ailleurs. Voilà. Des gens parlant coréen. Et c'est ce qui choque.
Ils parlent coréen. Hein,
coréen, voilà.
Coréen, oui.
Coréen. Et c'est là que le film écrase à nouveau la télévision. Parce que ce que j'attendais de la chronique... télé n'est pas venue. Là, j'ai eu la télé-réalité dans son côté inintéressant. On aurait pu avoir la télé-réalité parlant vraiment d'un pays comme la France. Là, ça n'a perdu que du rebut français. Et là, ça rappelait un petit quelque chose de la réalité de la Corée, le petit côté dur que pourrait avoir la Corée, un côté réel où... Comme dans un film de Kitano, la violence est filmée avec une certaine justesse, en fait. C'est pas comme...
Pour l'instant, on n'a encore pas du tout compris de quoi ça parlait, ce film.
Bon, je reviens. Donc, mon film parle d'une Coréenne qui arrive en... une Chinoise, pardon, qui arrive en Corée très sommairement. Elle arrive en Corée... On zappe directement sur un Coréen qui vit dans un trafic mafia, etc., tout ce qu'on veut... Il est au bas du rouleau, on n'en a plus rien à foutre de lui, c'est vraiment une merde, on le voit vraiment pendant tout le film.
Ça dépend si tu as ton rouleau vertical.
Voilà. Et tout d'un coup arrive cette, cette jeune chinoise. Tout d'un coup, cette jeune chinoise fait son apparition et elle est morte. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. C'est une morte qui tient le pavé. L'héroïne est morte. Et c'est quand elle est morte qu'elle, tout d'un coup, elle rentre à nouveau dans le film.
Et qu'elle devient intéressante.
Il y a pas très longtemps, j'ai vu Napoléon, et il tenait la vedette, et ben, il est mort.
Bah oui, il est mort.
Mais ça, tout le monde le sait.
Oui, mais pas Christian Clavier, il n'était pas mort.
On va pas reparler de la critique.
Oui, mais Christian Clavier est très vivant. Et ce n'est pas mort qu'il rentre dans le film. Christian Clavier dans le film rentre vivant. Même si on n'a pas la télé et qu'on n'a pas vu le film, nous savons que Napoléon était vivant au moment de ses hauts faits. Là, cette héroïne est morte au moment de ses hauts faits.
C'est l'actrice ou l'héroïne ?
L'héroïne. L'actrice est encore vivante. Enfin,
mais Christian Clavier, quand il est acteur, c'est Christian Clavier en fait. Il n'y a pas de, d'acteur et de. Enfin, c'est Christian Clavier quoi.
C'est Napoléon ?
Non, c'est Christian Clavier.
Enfin, on n'est pas en train de refaire la rose pour produire.
On ne peut pas parler rôles. De Napoléon, ni de ce que vous voulez.
Ni de Christian Clavier.
Mmh. Ni de Christian Clavier. Non, donc pour revenir à notre
c'est
histoire.
C'est chiant quand on coupe. Hein.
Vous êtes vraiment connu, les mecs. Donc cette jeune femme qui est morte en fait par un fait de petit vraisemblablement une tuberculose ou un truc comme ça va
on meurt encore de la tuberculose.
On meurt encore de
la tuberculose. C'est malheureux, ça. Ça, c'est malheureux.
C'est terrible. Hein. Et bien, voilà, c'est à savoir.
Dans les aéroports, en plus.
En arrivant de Chine, on meurt encore de tuberculose. Donc cette jeune femme.
Ils sont 1 milliard.
Écoutez, si on arrive à pied par la Chine.
Cette jeune femme arrive en Corée. Se marie à un Coréen véreux, histoire de contracter un mariage blanc et pouvoir travailler. Elle travaille, elle meurt de tuberculose. Et là, son mari, qui a complètement oublié qu'il est marié à quelqu'un, apprend que sa femme vient de décéder. Il la découvre petit à petit à travers un paquet de lettres et de témoignages laissés par sa femme. Et il découvre quelqu'un de formidable et d'extraordinaire. Et c'est très, très, très émouvant, puisque les deux acteurs sont incroyables de réalité, de véracité dans leur jeu. Il y a une espèce d'opposition entre la violence dans laquelle évolue notre espèce de yakuza, si on doit parler de manière japonaise, notre yakuza minable se prend des coups dans tous les sens, et de l'autre côté notre petite chinoise est d'une application incroyable. Et c'est très touchant en fait, c'est très touchant de les voir tous les deux.
Donc en définitive, c'était un bon film.
Non, c'est un excellent film. Écoutez mes chers amis, j'ai dégouliné lamentablement son sweatshirt tout le film.
J'ai eu peur.
Sacré humeur.
Voilà. Il est à croire que les voisins, les personnes assises devant nous n'ont pas osé se lever avant la fin du film parce que franchement, vraisemblablement, elles se sont mises à pleurer largement avant moi. C'était lamentable. Non, c'est vraiment un film que je recommande à beaucoup de personnes. Il a été à peine signalé dans le métro, à peine signalé n'importe où, etc. Enfin bon, comme tout bon film.
Peut-être c'est... parce que l'histoire était dure à raconter apparemment.
L'histoire n'est pas évidente à raconter parce que ça sort de tous les critères.
Parce que j'ai rien compris.
C'est une narration non linéaire.
C'est non linéaire. En
la
fait,
fois, vous allez être que deux.
J'imagine. Je
non,
recommence
mais,
l'histoire.
Non, mais attendez,
je recommence
attendez.
L'histoire. L'histoire commence.
Non, on recommence.
Allez voir ce film, pitié.
Non, je recommence. Si tu veux, tu
commences. Non, recommence pas.
Non.
Tu arrives.
S'il te plaît, tu ne recommences pas.
Moi, j'ai une question.
Qu'il te plaise ou pas, tu recommences pas.
J'ai une question. Écoute parce que question. J'arrive pas à m'y faire. Quelle est vraiment la différence entre un yakuza et un jacuzzi?
Yakuza fait des bulles. Le jacuzzi va te faire des bulles avec le nez.
Ouais, en fait, on va changer maintenant. Tu vas devenir notre spécialiste de langue orientale.
c'est bien aussi.
Alors qu'au niveau un truc qui serait vachement intéressant, c'est que toi et ta moitié, ou ton double, ça dépend des jours, c'est que vous nous racontiez un petit peu ce que c'est que l'exception culturelle française. Vous m'avez dit de très jolies choses sur tout ça, mais alors pas aujourd'hui.
Hein, une fois. Moi j'aime bien l'histoire.
Pour la prochaine fois,
c'est sympa quand même.
Non, mais moi je voudrais bien un petit peu rattraper le film quand même, parce que là visiblement il est mal parti, le pauvre.
Ouais, qu'est-ce qu'il a, mon film?
Bah, tu l'as mal vendu.
une scène de ménage en direct.
Je t'ai parlé d'un film. Je vous avais prévenu que mes chroniques seraient pénibles, faites pour des films amateurs de films chiants et extrêmement pénibles.
Bah, moi qui aime bien les films bizarres, avec une chronique bizarre comme ça, je me suis dit, tiens, ça doit être vraiment bizarre comme film et ça a l'air marrant.
C'est bizarre ce que tu dis. Ah, parce que c'est pas aussi, que marrant. Film, c'est
ça n'est
c'est pas que marrant.
C'est très émouvant. C'est très très émouvant.
Ah. Mais non, il y a une première partie du film qui est très drôle lorsqu'on se fout de la gueule. Donc, je sais pas si on doit dire Yakuza de... ou non, je sais pas quoi.
Nous allons dire cette espèce de personnage de gangster vraiment raté, voilà.
Il est ridicule.
Gangster minable.
Il est ridicule ce type-là, mais ensuite il va tomber amoureux d'une morte. Et c'est à ce moment-là que quand il découvre que cette femme-là est morte, donc je vous rappelle, il s'est marié avec elle, comme ça, histoire de dire quoi, je lui file mes papiers rapidement. Hop, on signe, c'est purement des formulaires de merde, on s'en bat les couilles. Et, excusez-moi, j'ai dit couilles.
En bite, il a dit couille.
En fait, elle réapparaît petit à petit dans sa vie comme ça. Pour lui, elle n'existe pas. Ça n'est rien du tout. C'est comme ton voisin de palier et tout d'un coup, tac, tac, tac.
En tout cas, c'est vrai que je trouve ça. Il y a un côté que je trouve émouvant, c'est que je connais un couple où ils se sont mariés. C'était un mariage blanc.
Mais
et
là,
la fille s'est mariée avec un monsieur, donc parce que ça l'a pour qu'il ait la nationalité canadienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus amoureux après. Et j'ai trouvé
et
ça
voilà,
vachement émouvant
ça.
Quand
et
j'ai
voilà,
dit
c'est
ça. Green
Guard, voilà.
Green
voilà. Mais non, c'est les potes à nous.
Non, c'est des gens que je connais.
Ce qui est incroyable dans ce film, si tu veux, c'est que la personne femelle de sexe féminin est morte. Ce type tombe amoureux d'une morte. Et tac,
la femelle.
Non, il se rend compte véritablement qu'il est amoureux lorsqu'elle est morte.
Bon, comme visiblement ton verre n'arrive pas à faire régner un petit peu d'ordre ici, je vais vous parler de pinard parce qu'il y en a marre, voilà.
Oui, voilà. Ah.
Et pas que de vin parce qu'on va aussi parler de la presse. Ah. Les journaux, vous lisez Lyon
La presse pour voir le vin.
Voilà, bien sûr. Vous lisez Lyon Capital?
Pas du tout.
Ouais, c'est normal, on est à Paris là. Mais Lyon Capital, c'est un journal qui, franchement, est pas mal lu, ou en tout cas, il y a pas mal de pubs sur Lyon. Et ce journal a eu la bonne idée de faire un article sur un problème de Beaujolais. À savoir, les producteurs de Beaujolais avaient décidé de bénir 100 000 hectolitres de ce superbe vin. Donc, bah, parce que sinon, ils n'arrivaient pas à vendre le reste. Ils en ont trop fabriqué. Donc la question était, est-ce qu'ils allaient le transformer en vinaigre, en alcool? Sûrement pas en vin de table parce qu'il y en a déjà trop. Et puis alors, ils ont fait un article dans Lyon Capital sur ce sujet. Ils ont interviewé un critique gastronomique, un excellent critique gastronomique qui a expliqué, qui s'appelle monsieur Moss. Il a expliqué ce monsieur que de toute façon le vin de Beaujolais n'était pas un vin, c'était tout juste un jus de fruits légèrement fermenté, parce que c'était normal, parce que les viticulteurs du Beaujolais ils font pisser la vigne, donc forcément ils font pas du bon vin. Ils prennent des budgets pub énormes, mais à part ça, bon. Et de toute façon, pour avoir un fameux goût de banane ou de cerise, c'est très facile parce qu'ils mettent des levures de laboratoire. Voilà.
Ah, c'est beau, la voilà. Vie.
Et alors, ça n'a pas plu aux producteurs de Beaujolais. Pourtant, il y avait aussi un monsieur du.
C'est bizarre.
Il y avait un monsieur des syndicats du Beaujolais, machin et tout, qui a aussi écrit, qui s'appelle monsieur Large, et qui lui a écrit pour dire que le vin de Beaujolais était de qualité, etc. Mais bon, ensuite, quand il a vu l'article de l'autre, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte parce qu'ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de dire que ce n'est pas le Beaujolais, ce n'est pas du vin, et on n'a pas le droit de dire non plus que c'est un vin de merde. Parce que M. Moss, il a dit, c'est un vin de merde. Alors moi, quand j'ai lu qu'ils avaient porté plainte pour le vin de merde, quand j'ai lu ça, bon, ben, je croyais que Béa voulait parler, mais visiblement, elle ne veut pas.
Si, j'avais juste une question. Il parle du Beaujolais nouveau ou du Beaujolais...
Du Beaujolais, tous les Beaujolais.
Tous les Beaujolais.
Alors, ce que dit M. Moss, c'est que les Beaujolais et Beaujolais Village, les 80% sont mauvais, et que dans les crus, il y en a quand même qui sont corrects. Ce qu'ont retenu les viticulteurs, c'est qu'il avait dit vin de merde et que donc c'était une insulte scatologique. Alors moi, j'ai lu trois fois l'article avant de trouver l'endroit où c'était écrit merde. Hein. Mais bon, je l'ai trouvé. Ils ont porté plainte et puis ils ont demandé pas grand-chose comme réparation. Ils ont demandé tout simplement qu'on leur donne 1 euro par hectolitre vendu. Ça fait quand même 256 000 euros en tout. Donc le journal a un peu de mal à payer. Ils sont censés payer tout de suite.
Forcément, pourquoi est-ce que ça a été accepté, pourquoi le jugement est passé comme ça? Ben, c'est facile, le jugement a été fait à Villefranche-sur-Saône. Pour ceux qui sont un peu forts en géographie, oui. Villefranche-sur-Saône, c'est quand même
la capitale juste du Beaujolais.
Moi, je suis pas fort en géographie, mais je suis fort en Beaujolais, j'avais repéré.
Et donc, bah, le juge, on pense qu'il est un petit peu partial, quoi, quand même, quelque part.
Il est producteur, peut-être.
Visiblement,
tu
il
dis
a
ça capables... parce que t'es pas du Beaujolais.
Moi, j'ai lu les arrêtés du jugement. Le juge parle quand même des viticulteurs du Beaujolais, du spécialiste du Beaujolais. Mais par contre, il parle du critique en disant « un certain critique ». Soi-disant appartenant à un jury, etc. On sent dans le jugement déjà une partialité quand même assez certaine. Donc ils veulent faire mourir ce pauvre petit journal parce que mine de rien, 250 000 euros plus les 100 000 euros qu'ils sont censés payer pour d'autres choses. Pour un journal indépendant, c'est très dur à payer. En plus, ils sont censés payer tout de suite.
Ils veulent faire payer tout ça à un journal parce qu'il y a un journaliste qui a dit qu'il n'aimait pas le Beaujolais.
Non, ouais. Parce qu'il y a un journaliste qui a interviewé un critique qui a dit qu'il n'aimait pas le Beaujolais.
Ah oui,
mais
c'est
il a utilisé
même pas le
journal. Merde. Il a utilisé le mot « merde » parce qu'il l'accuse pour avoir fait une critique scatologique. C'est du dénigrement.
On a tous bu du Beaujolais nouveau
et on sait tous.
On va pas dire qu'on est d'accord parce qu'on n'a pas les moyens.
Non, c'est pas vrai. Nous, on
mais quand
a
même.
Bah, en fait, il y en a des bons.
Il y en a des bons.
Un
Beaujolais
nouveau,
il y en a des bons. Mais Beaujolais nouveau, il y en a des bons.
C'est ce que dit Monsieur Mauss. Monsieur Mauss dit que ça peut être bien. Mais donc l'amende c'est 1 euro par hectolitre, donc si vous voulez gagner 1 euro, fabriquer un hectolitre de Beaujolais, ça vaut le coup en ce moment. Moi j'ai particulièrement aimé certaines remarques quand même. Il y a des trucs qui sont, moi je trouve que le critique n'a pas complètement tort sur certains points. Par exemple, il dit un truc très bien: autrefois il y avait trois rivières qui arrosaient Lyon, le Rhône, la Saône et le Beaujolais, mais maintenant c'est le Côte-du-Rhône qui a remplacé, et le critique dit c'est sans doute mieux. Je crois que ça leur a pas plu. Ils osent pas critiquer là-dessus. Ils peuvent rien dire là-dessus, les viticulteurs du Beaujolais. Mais je pense qu'ils ont pas aimé qu'on dise que le Côte-du-Rhône était meilleur. Et pourtant, Dieu sait, moi, j'ai vécu à Lyon, que le pot de côte, c'est une religion, quoi. C'est vrai, c'est quelque chose de vraiment important.
46 centilitres.
Oui. Mais je vous ferai un jour quelque chose sur le pot, parce que c'est très intéressant.
Ça, c'est pas la peine. Tu l'as déjà fait à Lyon, déjà directement.
Et sinon, y a quand même des défenseurs. Il y a Jacques Vergès, parce que Jacques Vergès est toujours là quand il entend un truc un peu marrant. Donc,
il est toujours là à Lyon, notamment.
Oui, en plus, il aime bien Lyon. Il y a Jean-Pierre Coff qui a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que c'est vrai que c'était bizarre de dire que le Beaujolais est un vin de merde, parce que c'est un vin qui n'a pas tant de matière que ça, qu'on pourrait plutôt le comparer à une mauvaise pisse.
Et il a dit qu'on pouvait pas dire que c'était de la merde, parce que ça n'avait pas assez de matière.
Voilà. D'artiste à la marquée.
C'est un bon point.
Ah oui,
c'est un bon point pour Jean-Pierre Coff.
En attendant, ces pauvres journalistes, ils sont bien embêtés et ils ont une somme à payer là. Et qui est assez
Est-ce qu'on
énorme.
Peut faire quelque chose pour eux? Est-ce qu'ils peuvent faire appel? Est-ce que.
Boire du côte plutôt que du Beaujolais.
Faut faire des dons.
Ça va être dur, hein, vu ce qu'on trouve dans les bars.
Est-ce que si on dit moi j'aime pas le Beaujolais nouveau, c'est pas très bon, mais tous les ans j'en bois parce que c'est rigolo, est-ce que je peux me prendre une amende?
Bah voilà, ça peut commencer par ça.
Parce que c'est pas très bon le Beaujolais nouveau, par exemple, quand même.
Non, le Beaujolais nouveau, tous les ans Beaujolais il est pas bon.
Non, c'est quand même pas une grande région viticole.
Et alors, là c'est quand même un jugement sur une histoire de goût.
Non,
c'est
ça qui est pas normal.
Non, mais ce qui est pas normal,
c'est ça qu'il faut dénoncer.
Voilà, c'est que ce critique de goût, ce critique peut dire que 80% des vins du Beaujolais sont mauvais à son avis.
Si, c'est son problème, lui, c'est son avis.
Et peut-être que 20% des vins du Beaujolais viennent pas du Beaujolais.
On a le droit de dire que le mouton Rothschild, c'est de la merde.
Oui, mais
on a le droit. On a parfaitement le droit.
Cela dit, si depuis mon point de vue de bourguignoise, je peux poser mon petit grain de sable, je tiendrais à dire que le Beaujolais, parmi tous les vins de merde que l'on sert dans les restaurants parisiens, est certainement loin d'être le plus mauvais, et que le Bordeaux le surpasse en général.
Merci.
Dans ce qui est du vin de merde.
Tout à fait.
D'accord, mais on pourrait dire que le champagne c'est de la merde, et bon, ça n'engage que soi. Mais
on a le droit de c'est de la merde avec des bulles.
Mais pour le coup, ça a plus la couleur de la pisse.
De la merde qui pisse.
C'est vrai.
Voilà.
Mais enfin, le problème est là, je pense.
C'est complètement ahurissant de faire un procès contre quelqu'un qui donne ses goûts. Je suis désolée que je sais pas, François Giroud, qui faisait des critiques
à son âme.
Voilà, paix à son âme, qui faisait des critiques sur la télévision avait quand même le droit de dire qu'elle aimait ou qu'elle aimait pas tel ou tel programme.
Bah, c'est un peu ça le problème quand même, c'est qu'on ne peut pas donner son avis là. En plus, il faut savoir quelque chose, c'est que ça vous dit peut-être pas grand chose, moi ça me dit pas grand chose, 350 000 euros, je sais, c'est beaucoup, d'accord. Mais je ne me rendais pas compte de quelles étaient les amendes que payaient les journaux quand ils écrivaient quelque chose qui ne plaisait pas à droite, à gauche. Ça arrive super souvent. Les spécialistes, c'est le Canard Enchaîné et Charlie Hebdo, qui n'arrêtent pas de payer des amendes pour ceci, cela. Et ben, il faut savoir qu'en fait, cette amende que devrait payer le Lyon Mag, en tout cas le jugement, est... enfin, ils ont fait appel, mais le jugement a été arrêté. Hein. Ce que je vous dis, c'est vraiment la somme qu'on leur demande. C'est environ 10 fois plus que les plus grosses sommes qui ont déjà été demandées, à ma connaissance. Hein. Et souvent, donc, c'est plutôt dans les 10 000 euros qu'on demande.
On touche à la liberté de la presse.
T'es en train de dire que 1 euro par bouteille de Beaujolais, c'est cher.
1 euro par hectolitre, pour 100 litres.
T'es en train de nous dire qu'il vaut mieux voler, qu'il vaut mieux voler quelqu'un, qu'il vaut mieux faire plein de trucs plutôt que de dire du mal de grosses corporations financières.
Mais le Beaujolais est à la France que le Coca-Cola est aux États-Unis. C'est d'ailleurs c'est le produit marketing.
Mélangeons les deux.
Oui, mais le Coca-Cola, on peut le boire avec du whisky et le Beaujolais avec du whisky,
mais
c'est pas
vrai
terrible.
Mais il est vrai que dans l'ordre de l'année que j'ai passé aux États-Unis, que j'ai passé aux États-Unis, le Beaujolais a tenu une place d'importance similaire à celle qu'a tenu la Guinness lors de la Saint-Patrick. Et savoir que le Beaujolais a peut-être supplanté la Guinness lors de la Saint-Patrick, ça m'a fait vachement plaisir.
Ah, t'as mis le doigt justement sur le problème. C'est que s'il y a eu procès et qu'il y a une telle somme, c'est qu'il y a un fort lobby des viticulteurs et qu'il faut surtout pas toucher au fric.
Les enjeux financiers sont énormes de toute façon.
Enquête donc sur ce fameux juge.
S'il vous plaît, on parlera de tout ça une autre fois.
Je vais vous donner son nom si vous voulez le lyncher, le juge. Hein. Je vais vous le retrouver.
Annonce.
Alors, monsieur le juge, comment il s'appelle? Il s'appelle Gérard Zemerli.
Ça s'écrit comment ça, Zemerli?
Z-E-M-E-R-L-I.
Oh là, c'est un...
Et donc, ce monsieur...
C'est pas breveté, ça?
Ce monsieur a considéré que... Donc, c'est en toute impartialité, puisqu'il est juge, que vraiment, c'était absolument scandaleux de faire une remarque scatologique.
Quel tribunal?
Excusez-moi, c'est juste mais pour c'est rire, quoi, mais c'est un juge à col roulé, ça.
Non, mais soyons précis. Bah
ouais. Tribunal de grande instance.
C'est un juge à col roulé. Carrément. Tribunal. Et c'est sur les propos scatologiques.
Oui, alors, ce que ça veut dire aussi, par exemple, que si vous dites « j'ai vu un film de merde », vous imaginez la merde fumante, j'imagine, à chaque fois. Parce que sinon, c'est pas scatologique si on utilise ce mot sans imaginer l'aspect scatologique. Mmh. Moi, si je dis « j'ai vu un film de merde », je pense que le film était un navet, en fait. Ça revient au même. Et si je dis « c'était un navet », je ne pense pas aux légumes rose et blanc. Et si je dis « c'était un film de merde », je ne pense pas à un espèce d'étron fumant.
Ouais,
donc, je
ne
considère pas que ce soit vraiment
cas
scatologique de dire « j'ai vu un film de merde ».
Quoi que dans certains
justement,
cas, ouais, le film
ça
de merde
nous amener à
les gens, si les gens avaient dit sur ce vin, le Beaujolais, si ça avait été du cinéma, c'était un navet, ils étaient pas condamnés.
Ben, en tout cas, les viticulteurs n'auraient pas pu dire que c'était scatologique.
Est-ce que j'ai le droit de dire c'est un navet fumant?
Donc on peut dire que le Beaujolais, c'est du navet?
Voilà.
Tu peux le dire. Hein.
Est-ce donc, qu'on peut ça, dire qu'il y a des vinaigres qui sont meilleurs que certains Beaujolais nouveaux?
Et même que certains navets. Hein.
C'est
juste mon avis. Hein.
Est-ce qu'on peut faire remarquer que ton verre a déjà bu du vinaigre en croyant que c'était du vin?
Non, croyons que c'était pas du vin, du Beaujolais. Nouveau.
Ah, pardon.
Non, mais pour sauver le Beaujolais, nous dirons que nous avons bu, et nous buvons tous les ans des Beaujolais d'extrêmement haute qualité, qui n'ont rien à envier à beaucoup, beaucoup de Bourgogne.
Mais tout à fait, après toutes les appellations du Beaujolais, il y a des vins admirables, très très bons.
Oui.
Mais le Beaujolais nouveau, c'est
mais
c'est
une fumisterie absolue.
Le Beaujolais nouveau, c'est un rendez-vous comme la Saint-Patrick. Le Beaujolais nouveau, c'est comme les rues que j'ai vues à Londres remplies de gens avec des bouteilles, des pintes de Guinness à déborder dans la rue et un type qui venait récupérer des pintes de Guinness un peu partout, jusque dans le cannibale.
Mais il faut pas qu'ils nous disent que c'est du bon vin, c'est pas vrai.
Ça, c'est une connerie.
C'est une fête.
Le Beaujolais nouveau.
Et dans 5-10 ans, on parlera peut-être de la.
On n'est pas en train de parler du Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau est déjà passé.
Non, le truc du vin blanc.
Mais de cette histoire, ce qu'on peut conclure, c'est pas que le Beaujolais est plus ou moins bon, ou plus ou moins bon, etc. Ce qu'on peut conclure, et ça par contre c'est complètement objectif, c'est que le lobby des gens qui sont derrière le Beaujolais est largement plus malsain que les autres, et en dessous de tout, et s'est placé à la tête des gens qui sont insupportables. Et ça par contre, c'est une preuve tangible d'un truc. Les gars, ils ont demandé, ils ont envoyé une amende, je sais pas combien.
Le lobby déjà. N'est pas nouveau, lui.
Complètement. Et lui, par contre, il est pire que ceux des enfin, je sais pas, du Côte ou du Bordeaux. Du
non, mais maintenant que j'ai retrouvé, si tu veux, on peut se penser que dans 5 ans, d'ici 5 ans, il y aura le même lobby pour.
La prochaine fois que tu tapes sur la table, je te tape sur la tête.
On peut penser que d'ici 5 ans, il y aura le même lobby pour le Beaujolais Nouveau que pour la Saint-Vincent Tournante. Lobby qui se plaindra de la qualité dont on accusera les vins. Blanc au moment de la Saint-Vincent tournante que pour le Beaujolais Nouveau, etc.
Avant,
etc.
Parce ces vins blancs, ils étaient rouges, voilà, ils ont fermé sa gueule, c'est scandaleux. Et voilà les mots de conclusion. Merci Valérie.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de super de terminer l'émission, à moins que ton verre ait une chronique aussi. Ce que
non,
je sais
non,
pas.
J'ai pas de chronique.
Non, non, mais c'est lui qui conclut, c'est le présentateur quand même.
Oui, donc, bon, d'accord, mais je dis merci à tout le monde.
On va faire une petite conclusion. On va se faire une petite autocritique. Ou plutôt une petite auto-congratulation.
Oui,
qu'est-ce que vous en pensez? On vote. Qui est pour l'autocritique? Zéro voix.
Nul.
Qui est pour l'autocongratulation?
Ouais, génial, ouais.
Ah, qui s'abstient?
Ouais.
Darty s'est abstenu. Hein. Et
qui
Béa.
Va aller faire réchauffer les trucs? C'est quoi? C'est
Béa. Indien. On va Béa. Manger indien non. ce soir, Mathieu.
J'ai répondu non à chaque question. Tu crois pas que je vais dire oui maintenant?
Il faut quand même vous expliquer que maintenant, on va commencer à boire l'apéritif. Et on va manger.
Ah bon, on n'avait pas commencé.
La prochaine fois que tu tapes dans la télé.
On se désaltérait.
Ah bah oui, mais d'accord.
Ça n'avait rien à voir. Donc on est chez Béatrice. C'est quoi ton adresse?
Et si on passait le générique de fin maintenant?
Non, mais on est bien chez elle. En plus, c'est pas trop mal rangé quand même. Hein.
Et donc, alors, ça vous a plu? Enfin, je parle pas à vous parce que vous pouvez pas nous répondre. Ça vous a plu?
Oh Ouais. C'est magnifique.
Formidable.
Alors, a priori, on la passe ou pas?
Ah, demain, j'achète une télé et puis je vais voir
c'est,
Stella.
C'était non. l'émission pilote, une émission non, blanche. Télé,
bah, demain, j'achète une radio. Hein.
Bah, t'es
non,
con.
C'est sur ouais. Internet.
Faut essayer d'un ordinateur, alors.
Mais non, ceci dit, là, l'idée de diffuser sur Internet, et je pense que le fait de diffuser sur Internet, c'est vraiment parce que c'est simple et que ça coûte que dalle. Si on pouvait vraiment faire la même chose en grande zone et dans la légalité... on fera pareil.
Bah oui, mais c'est plus difficile. Hein.
Donc, Darty, est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site internet?
Non, pas l'adresse de Béa.
5 rue des Philippines, 60. Non, merde. Ah,
non, c'est pas ça.
Ah merde, putain, j'ai encore oublié.
Une amende.
Bah voilà, on me demande de faire une connerie. Bah je fais une connerie.
www.
Point. 3W donc, comme d'habitude.
Quoique.
W3 on peut dire, mais ça
W3.
Dépend.
Hein.
Quoique.
Alors comment tu l'écris, quoique?
Q-U-O-I-Q-U-E-U-X.
Ah, comme quoique.
Ton verre l'écrit QQX, mais ça ne marchera pas.
X comme les films de cul.
Quoique.
Et QQ comme QQ.
Quoique.org. Org comme organisation.
Ouais, d'accord, j'ai eu peur.
Non, mais c'est dit.
Ouf, on a eu de la chance.
Si vous l'avez trouvé,
bon,
sur internet,
et sur ce,
si vous êtes déjà
on clôt le débat.
Sur ce, on clôt le débat.
Allez, générique de fin.
Messieurs, mesdames, mesdemoiselles.
Ciao.
À bientôt.
À bientôt.